Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va essayer de réfléchir si vous voulez sur ce thème. Alors cette notion là de comment est-ce qu'il faut essayer d'aborder le principe du mensonge et de la vérité avec l'enfant. Et c'est une partie très très importante du chinuch de l'éducation. Parce que les chachamim sont très très matpuis sur le émet. Pourquoi est-ce que l'enfant il doit être dans la vérité? Maintenant, après, le problème, comme on l'a expliqué déjà plusieurs fois, c'est qu'on va transmettre beaucoup de choses à un enfant, mais le principal de ce qu'on va lui transmettre, c'est ce qu'on est. Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention, justement, qu'il n'y ait pas ce décalage entre ce qu'on est et ce qu'on montre. Parce que l'enfant, lui, il ne reçoit pas ce qu'on lui dit, il reçoit ce qu'on lui montre et ce qu'on exprime, ce qu'il ressent. C'est marqué dans la Gemara que Hachem, quand il y avait plus de prophètes, alors il a transmis la prophétie aux enfants et aux fous. Aux enfants et aux fous. Ça veut dire que quand Hachem il veut transmettre une... Par exemple, la Gemara raconte dans Gittin que Rabbi Yochanan, quand il voulait savoir quel allait être l'avenir, il demandait à un enfant de lui donner un pasouk. Et l'enfant lui disait une prophétie. Alors, il dit pourquoi ça passe par les enfants et par les fous? Alors le Rabbi Nebuchadnezzar, il explique là-bas dans la paracha de Miket, parce que l'enfant, il n'a pas de da'at. L'enfant, il n'a pas la capacité de conceptualiser. On a expliqué déjà plusieurs fois que l'enfant, il ne comprend rien, mais il ressent tout. Donc, le cerveau, l'esprit, il a un avantage, c'est qu'il arrive à conceptualiser, mais il a un désavantage, c'est qu'il peut créer un écran devant la sincérité. Puisque quelqu'un, il peut tomber dans le piège de son discours, ou alors dans le piège de ses intérêts, ou dans les pièges de ce qu'il cache, ce qui va faire qu'il va créer le mensonge. Parce que la base du mensonge, c'est le décalage entre ce qui est et ce qui est exprimé, entre ce qui est vécu et ce qui est ressenti. Il dit, cette logique-là, ce décalage, c'est le problème. Or, l'enfant, il ne connaît pas cette notion. L'enfant, pour lui, il existe une seule version. Oui, c'est nous qui lui apprenons qu'il y a deux versions. Maintenant, d'où est-ce qu'il sait qu'il y a deux versions? Parce qu'il voit notre incohérence. Il voit nos contradictions. C'est comme ça qu'il sait qu'il y a deux. Mais lui, il pense toujours qu'il y a un, au départ. Pourquoi? Parce que l'enfant, il est naturel. Il a mal, il pleure. Il a pas mal, il pleure pas. Ouais. Il ne peut pas jouer un rôle. Il a faim, il demande à manger. Qui c'est qui lui a montré que des fois, on fait semblant qu'on a faim pour manger? Cette logique-là, ça veut dire que le décalage qui existe entre la vérité et le mensonge, alors, c'est quelque chose qui est enseigné. C'est pour ça qu'on fait très très attention que quelqu'un, il va mettre une atmosphère dans sa maison et dans la relation qu'il va entretenir avec lui-même et avec ses enfants qui soit une relation de vérité. Pourquoi? Parce que sinon c'est ça qui va passer. Parce qu'il ne peut pas passer autre chose que ce qu'on est. Et le pire, c'est que c'est même inconscient. C'est-à-dire même si on n'est pas à côté, même si on n'est pas proche, mais ce qu'on vit vraiment, c'est ce qui va passer chez l'enfant. Donc c'est quelqu'un déjà, il fait un examen de conscience par rapport à lui-même pour savoir où est-ce qu'il en est. Et pour ça, on dit « katan en bo da'at », l'enfant, le petit, il n'a pas de da'at, il n'a pas cette capacité de conceptualiser, il n'a pas cette capacité de réfléchir, il n'a pas ce niveau de conscience et de maturité. Ça veut dire que l'adulte, il l'a, lui. Maintenant, l'enfant, il a besoin de ça, il a besoin d'être rassuré par la capacité d'assurer et d'assumer de ses parents, et en même temps, ça oblige les parents à jouer leur rôle de parents. C'est-à-dire que l'enfant, c'est une obligation pour l'adulte d'être un adulte, de jouer son rôle d'adulte. Maintenant, en étant un adulte, il rassure l'enfant et en même temps, il joue son rôle. Il est ce qu'il doit être. Maintenant, quand on comprend ça, ça veut dire que cette capacité du da'at, cette capacité, en fin de compte, de distinguer les choses qui sont vraies, les choses qui sont fausses, la différence entre la connaissance et le vécu, tout ce qui fait que quelqu'un il s'implique dans la réalité de manière vraie, il dit, c'est ça le da'at, oui. Alors cette dimension-là, elle est exprimée par l'adulte, parce que c'est lui qui la contient. C'est pour ça que c'est marqué que celui qui a du da'at, alors c'est marqué qu'il loue banam et amikdash miyamav. C'est comme s'il avait construit un temple de son vécu. Pourquoi? Alors le Maharal de Prague, il explique, parce qu'un homme, en vérité, lui-même, c'est un amikdash. Lui-même, c'est un temple. Maintenant, quand quelqu'un, il faute, vous voyez, en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la shekhina du temple. Il enlève la présence divine du temple. Après, quand il fait teshuva, donc il retrouve sa conscience. En français, on dit, on retrouve ses esprits. J'ai compris en fin de compte la gravité des choses. J'ai compris les choses. Donc on recrée à l'intérieur une conscience. On recrée. Et ça, c'est ça la logique de la vérité. Parce que la vérité, c'est que le Beth Amikdash, il est là, le temple, il est là, et la Shekhina, elle est dedans. C'est pareil. Toi, t'es ici, et ta tête, elle est dans toi. Maintenant, ta parole et ton acte, ils correspondent. À chaque fois que les deux sont ensemble, on appelle ça le Emet. C'est pour ça que Chotmo Shel HaKadosh Baruch Hu Emet. On dit la signature de Dieu, c'est la vérité. Pourquoi ? Parce qu'il s'exprime de cette manière. Il est de cette manière. Il est à 100% Emet. Ça veut dire qu'il est 100% cohérent. Et nous, on doit apprendre d'Akadosh Baruch Hu aussi cette mida de Emet, cette qualité de Emet. Maintenant, l'intérêt, c'est que l'enfant, encore une fois, dans son petit âge, il est comme ça. Il est naturellement comme ça. Pour ça que la vraie question, c'est est-ce qu'on doit éduquer les enfants ou est-ce qu'on ne doit pas les abîmer ? Une fois, il y a un rêve, il a inscrit ses enfants dans une école. Mais il savait que ses enfants sont des gens intelligents, sont des enfants très intelligents. Les parents eux-mêmes, c'est deux grosses têtes. Les deux, ils sont agrégés de mathématiques et les deux, ils sont amis de Khamim. Oui. Donc le type, il a des enfants très très intelligents. Il les a inscrits à l'école, il leur a dit « Je ne vous demande pas de les améliorer, mais ne les abîmez pas. Ne les abîmez pas. » Ils n'ont pas compris, les autres. Ils ont dit « Mais non, tu nous confies les enfants, on va s'occuper. Non, ils vont grandir. Faites votre travail, donnez des cours, donnez des exercices. Ils vont devenir des khachamim, n'ayez pas peur. Mais ne les abîmez pas, ne les cassez pas, ne les détruisez pas, ne leur faites pas honte. Ne leur passez pas vos complexes personnels sur eux, ne réglez pas vos problèmes avec eux. Essayez d'être le plus absent possible. » Oui. Donc c'est quoi cette logique ? Pourquoi ? Parce que c'est pas évident qu'une personne, elle arrive à être naturellement cohérente comme l'enfant est cohérent. Vous voyez cette logique-là ? Parce qu'il y a une logique de spontanéité chez l'enfant, il y a une logique de sincérité chez l'enfant, qui fait qu'il n'y a pas justement d'écart entre son intériorité et son extériorité. Alors cette qualité-là, qui demande des années et des années de travail pour être retrouvée par un adulte, elle est naturelle chez l'enfant. Vous voyez cette logique-là ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un flux comme ça, il y a un flux d'existence, il y a un désir d'existence, il y a un désir d'être, il y a un désir de rigoler, il y a un désir de pleurer, qui est naturel chez l'enfant. Oui ? C'est comme si tu vois un bébé qui pleure, tu dis, il fait semblant. Mais non, il pleure. Tu dis, il a faim, alors ouais. Il a toujours quelque chose. Ou il a faim, ou il a fait dans sa couche, ou il a une brûlure au derrière, il a quelque chose. C'est pas qu'il a rien. Tu peux pas dire qu'il a rien. C'est logique. Ben, cette logique-là, c'est quoi ? C'est que la vérité, c'est qu'il y a une impulsion à l'intérieur, et il y a une expression. Il y a une impulsion, et il y a une expression. Maintenant, la cohérence entre l'impulsion et l'expression s'appelle la vérité. Vous me suivez ou non ? Maintenant, quand ce flux-là, il émerge de l'enfant de manière naturelle, vous voyez ? Alors nous, on est là pour accueillir ça. C'est-à-dire, il va y avoir des tentatives d'expression de l'enfant, des tentatives d'existence de l'enfant, et nous, on est là pour les accueillir. Les accueillir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va les prendre et on va les optimiser avec lui. Maintenant, des fois, il s'exprime dans le bien, et des fois, il s'exprime dans ce que nous, on appelle le mal. Mais pour lui, ce n'est pas du mal, puisque lui, il est dans une logique d'expérience. Il est en train d'apprendre. Vous me suivez ou non ? Il veut apprendre. On a expliqué déjà un million de fois que l'enfant, c'est comme l'eau. C'est comme de l'eau. L'eau, elle avance. Vous savez, toujours on dit cette blague. Il y a une fuite au sixième étage, mais le plafond du rez-de-chaussée, il est en train de sauter. Pourquoi ? Alors on te dit, rien n'arrête l'eau. L'eau, elle avance. L'enfant, c'est comme de l'eau. Maintenant, l'enfant, il avance. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles on doit lui montrer des limites. Il y a des choses sur lesquelles on doit l'encourager. Normalement, quand il fait du bien, on doit l'encourager. Et quand il fait ce que nous, on appelle du mal, on doit l'optimiser. Mais si on va stigmatiser le mal, ou pire encore, on va renvoyer le mal à l'intérieur, donc lui, il comprend que le fait d'avoir été spontané, c'est quelque chose de dangereux, donc maintenant, il va être faux. Pas si vous suivez. Sauf que nous, on lui a appris à être menteur. C'est marqué ici dans la Gemara. La Gemara dans Souka d'Afk, même Vav. Lo lima inish le yenoka de yeivle mide, de yeivne mide. Il ne faut pas dire à un enfant qu'on va lui donner quelque chose.
Veloye Ivle, et on va pas lui donner. Mishum Deate le Agmour et Shikra, parce que ça va, on va lui apprendre à mentir. Parce qu'il a vu qu'on a dit une chose et qu'on a fait autre chose. Maintenant, il a fait du bien, on lui promet du bien. Il a fait du mal, on lui promet du mal. Et il va recevoir la treha et la bicyclette.
Mais d'une certaine façon, ce n'est pas un dilemme qu'on ne peut pas résoudre. Je vais donner un exemple. Un enfant qui dit, par exemple, ouvertement, je n'aime pas cette personne, je n'aime pas ma grand-mère. Ouais. La voix, il lui dit, d'une certaine façon, le parent essaierait de trouver un compromis verbal.
Oui, j'ai compris. On va voir après ça, comment on va aménager ça. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est comme si, par exemple, quelqu'un il vomit, tu l'empêches de vomir. Il va mourir. Est-ce que tu mets la main comme ça? Il va s'étouffer, c'est dangereux. Il vomit maintenant, ouais. Alors maintenant, il s'exprime. Alors encore une fois, nous, parce qu'on a une culture, parce qu'on a des malaises, parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des complexes. Alors quand il fait du mal, ça nous fait honte. Et quand il fait du bien, ça nous fait plaisir. Mais on n'est pas là pour se faire plaisir. On est là pour accompagner l'enfant dans ses tentatives d'existence. Maintenant il a tenté quelque chose. Ouais. Il a, par exemple, il a fait de l'insolence. Toi, tu dis, oui, il est mal élevé. Non, il voulait connaître tes limites. Il te pousse à bout, il excite sa sœur, il se lève en classe, il attend que le professeur il le fait asseoir. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il fait lui? Il est comme l'eau, il pousse. Mais en même temps qu'il pousse, il apprend les limites de la société, il apprend les limites de la logique, il apprend la limite de la classe, la limite de sa place, là où il s'assoit, la limite de qui c'est qui a raison, qui est-ce qui a tort. Il apprend tout ça, il est en train d'apprendre, il est dans l'apprentissage. D'accord? Maintenant, si nous on met une connotation négative dans quelque chose. Donc lui, maintenant, il absorbe cette chose-là. Si on lui montre qu'on est gêné, non pas à cause du principe même de la vérité, mais à cause du regard des autres, donc lui, il apprend ça. Si lui, on lui dit, oh, tu sais, ben, des fois, il faut s'arranger. Ah bon, il apprend ça. Il apprend le compromis, il apprend tout. Parce qu'encore une fois, l'enfant, c'est une caméra numérique, 13 milliards de pixels. Oui, et en plus, avec un capteur sélectif, ça a été créé par Sony. Sony, c'est mon ennemi, vous le connaissez. D'accord. Donc il a un capteur sélectif. C'est que le mal, il l'enregistre du premier coup, mais le bien, il faut répéter beaucoup pour qu'il l'enregistre. Vous mentez une fois, il s'en rappelle tout le temps. Vous dites la vérité 1000 fois, il n'a pas compris. Donc le vrai, il faut tout le temps travailler. Le faux, c'est pas la peine, ne t'en fais pas. Hein. Tu fais une erreur une fois, tu dis un gros mot une fois, tu rentres une fois. Alors là, papa, il va s'en rappeler. C'est du laser, c'est inscrit, il a déjà sauvegardé, il a fait 44 copies, il n'oubliera jamais. Ah, tu as fait de la zaka, il va regarder, ouais, tu mets les téfilines, bon, il va falloir qu'il voit 1000 fois que tu mets les téfilines pour qu'il se dise, tiens, mon père, il met les téfilines. C'est comme ça. Parce que le Yetzirara, il a un filtre sélectif. Il dit, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, puisqu'on a dit que le vrai, c'est le cohérent, c'est ça le émet. Le émet, ça veut dire qu'il y a un potentiel qui se réalise, et ça, c'est un mouvement. Que la personne elle va vers la réalité, donc l'enfant il parle, l'enfant il crie, l'enfant il mange, l'enfant il fait quelque chose, il exprime quelque chose, d'accord? Donc moi qu'est-ce que je fais? Je reçois ce qu'il a exprimé, je le reçois, oui, et je lui montre. Ce qui est bien, je l'encourage, ce qui est mal, j'en fais une expérience. Mais jamais je le refoule. Vous comprenez cette logique ou non? C'est comme si un bébé, il a fait ses gros besoins, et tu dis, ah, c'est dégoûtant! C'est très dangereux. Non, j'ai des cas comme ça. Les gens, ils me disent, je sais pas, mon fils, il veut plus aller aux toilettes. Mais qui c'est qui lui a dit que c'était dégoûtant? C'est toi. Oh, c'est dégoûtant, c'est dégueulasse. Ah ben, change de toi. L'autre, il croit qu'il a attrapé une maladie. C'est normal. Il a mangé, il va aux toilettes, c'est normal. Pourquoi tu vas pas aux toilettes, toi? Donc, qu'est-ce que tu lui as fait? Tu lui as collé une image. Comprenez-vous qu'il a collé une image? Une fois, un rave aussi m'avait dit... Un enfant, il m'a dit, qu'est-ce que... J'étais là, quelqu'un lui a posé la question. Il a dit, écoutez, j'ai un problème, mon fils, il a 3 ans, il n'arrête pas de se toucher en bas. Qu'est-ce que je dois faire? Alors je lui dis, c'est sourd, c'est grave, attention, has v'shalom, là. Je lui dis, mais tu vas le traumatiser. Tu vas le traumatiser. Il va croire maintenant qu'il est un obsédé sexuel. Et qu'il n'est pas normal, et qu'il est fou. Et j'ai eu plusieurs cas de parents comme ça qui sont venus. Je lui dis, mais plus tu vas dramatiser, plus il va trouver ça excitant. Genre, il y a un truc ici qui se passe. Oh, j'ai vu dans quel état ça l'aimait. Ouais. Non, il faut passer les choses. Non, mon fils, on fait pas ça. C'est pas grave, ouais. Ça sert à rien, ouais. Même s'il va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de la jupe de sa cousine. Eh ben, c'est comme ça, tous les enfants du monde. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un traumatisme. Une fois, je me suis bagarré avec une directrice d'école, avec un parent. parce que le gosse, il avait dessiné une fille toute nue. Ils ont voulu le renvoyer de l'école. Je dis, mais c'est une découverte. C'est toi qui vas le rendre cinglé maintenant. Parce que tu as stigmatisé. Pourquoi, encore une fois, il a exprimé. Alors moi, je vous donne des choses un peu choquantes. Mais peut-être qu'il a faim, il va prendre le goûter de son copain. Tu vas dire que c'est un voleur ou qu'il a faim? Oui. Il n'a pas d'argent de poche. Il va faire les poches à la sortie du GAN. Alors tu dis c'est un voleur. Il est comme son grand-père. Qui m'a jamais donné l'argent qu'il avait promis pour le mariage. D'accord? Non. Non. Il a fait les poches. Alors tu dis on va réfléchir avec lui. Qu'est-ce qui est passé pour que tu vas là-bas? Oui. Pourquoi? Un enfant qui veut garder absolument. Tu lui donnes un goûter. Alors les autres, ils lui demandent. Ils disent non. Alors le lendemain, tu dis, ça te manque, mon fils, ça te manque. Tu lui achètes 40 paquets de bonbons et 50 paquets de gâteaux. Tu lui dis, vas-y, voilà. Il y a 19 kilos maintenant. Tu vas les garder pour toi. Alors il a compris que... Il y a la générosité dans le monde. Il va te donner ce que tu as besoin. Oui. Il y avait une famille comme ça aussi. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient toujours un cajot de pommes à la maison. Nous, on a des fruits, on a des bananes, des mangues, des babas. Eux, ils n'avaient pas les pommes. C'était des Coleman, ils n'avaient pas. Mais il y avait un cajot de pommes, toujours. Tu as faim, il y a des pommes. Ne dis pas qu'il n'y a rien, il y a des pommes. Tu as faim, il y a des pommes. Allez, va. Il se servait. Il savait que là-bas, c'était permis, là-bas. Là-bas, c'est permis. Ça veut dire qu'il y a une impulsion. Il y a une impulsion. J'ai faim, il y a quelque chose. Oui ou non? J'ai envie de parler, parle. Non, tais-toi, ferme-la, t'es un petit, tu comprends rien. C'est pas le moment, c'est trop tôt, c'est trop tard. Alors l'autre. C'est normal, tu lui renvoies son vomi. Il vomit, tu lui renvoies. Il respire, tu lui bouches la bouche. Encore une fois, je n'ai pas dit, mais non, c'est le FKR, on fait ce qu'on veut. Non, c'est seulement qu'on doit faire très attention qu'on accompagne une impulsion. Maintenant, quand cette impulsion, elle démarre de l'intérieur, elle arrive à l'extérieur et qu'elle est cohérente, on a créé un morceau, comme ça, c'est un morceau, vous voyez ? Ça s'appelle un bout de Hémet. Maintenant, il a fait une bêtise et il reçoit une punition, c'est du Hémet et c'est bien. Il a fait du bien et il reçoit une récompense et c'est bien. Et c'est du Hémet, c'est bien. Je dis, mais c'est pas grave. Bon, on lui a dit qu'il restait tout l'après-midi dans son lit parce qu'il a mis un coup de poing à son frère. Non, c'est pas grave. Bon, il est resté une demi-heure, ça suffit. Ah bon, toi, tu lui as dit qu'il va rester l'après-midi. Maintenant, tu lui as dit qu'il va rester une demi-heure. Tu lui as appris le mensonge. Tu dis, mais non, je lui ai appris la pitié. Non, tu lui as appris qu'on ne va pas au bout de ses décisions, qu'on ne va pas au bout de ses choix, qu'on n'est pas obligé d'assumer, que si on pleurniche un peu, on peut s'arranger avec les gens, on peut les embrouiller. C'est ça que tu lui as appris. Pourquoi? Toujours parce que j'ai dit, tu ne regardes pas qu'est-ce que tu montres à l'enfant. Tu regardes que ce que lui, il voit. Parce que lui, il ne voit pas la même chose que toi. Donc ça veut dire que maintenant, il va y avoir toujours un jeu, entre guillemets, perpétuel, entre ta manière d'être cohérente et sa manière à lui de percevoir ta cohérence. Ça ne va jamais s'arrêter. Alors maintenant, si quelqu'un considère que c'est un effort d'être cohérent, ça veut dire qu'il a un problème de cohérence. Parce que c'est pas fatigant d'être cohérent. C'est comme si quelqu'un... Des fois, je dis à des gens, bon, il faut faire ça. Ils me disent, quand même, vous demandez beaucoup. Ben, je vous ai juste demandé d'être un adulte, c'est tout. Si d'être un adulte, c'est beaucoup, ça devient un problème. Je sais pas si vous... Ouais, c'est logique. Ou alors c'est normal. C'est normal d'être adulte quand on est adulte. C'est comme si un médecin, il est médecin. Et un garagiste, il est garagiste. Et toi, tu es un adulte. C'est quoi ton métier? Adulte. Donc, un adulte doit être adulte. C'est normal. Maintenant, quand un adulte, il est adulte, c'est la plus grande leçon de Hémet qui existe. C'est une leçon. Maintenant, dans cette expression, c'est-à-dire ce passage de l'intérieur à l'extérieur, il y a aussi du Hémet que maintenant tu pleures. Et c'est du Hémet. Il y a du Hémet que tu t'es énervé. Et c'est du Hémet. Comprenez ou non? Il y a du Hémet que maintenant tu ne peux pas parler. C'est du Hémet. Pourquoi? À partir du moment où tu ne joues pas un jeu et que tu es entièrement toi par rapport à toi-même, il n'y a pas de problème. Tout est acceptable. Tout est. Et on peut tout vivre. On peut tout comprendre. Il faut simplement que ça soit cohérent. Et cohérent, c'est quoi? C'est par rapport à toi-même. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. L'enfant, il peut accepter n'importe quoi. Il peut accepter ton caractère. Il peut accepter tes changements d'humeur. Il peut accepter ta simplicité, il peut accepter ta complexité, il peut tout accepter. Il faut simplement que ça soit la tienne. Mais si tu ne la connais pas, ou si tu ne la maîtrises pas, ou si toi-même tu joues un jeu, ou si tu as un dédoublement de personnalité, ou tu as été jusqu'à la schizophrénie, alors ne viens pas ne viens pas nous parler du mensonge de tes enfants puisque toi-même t'es pas net. Comprenez cette logique là? Parce que c'est, encore une fois, l'enfant il est droit. Il s'est tordu, s'il a trouvé d'autres chemins, s'il a pensé que la courbe c'était le chemin le plus court, c'est parce qu'il a dû voir des choses, il a perçu des choses, il a compris des choses. Donc et ça c'est comment le message qu'on lui fait passer. Et c'est pour ça que cette logique là, quand on regarde les principes et qu'on regarde le vrai et qu'on regarde le faux, alors on doit déjà nous-mêmes être bien ancrés dans la notion. C'est ça que la Gemara dans Shabbat là-bas elle dit Shikra Lokai Kushta Kai. La vérité, elle tient. Le mensonge, il ne tient pas. Mais il faut bien analyser cette notion, bien la comprendre pour savoir exactement de quoi ça parle. Alors la Gemara, elle prend l'exemple des lettres. Elle dit, parce que tu vois, quand tu écris le mot Sheker, le Shin, il se termine en pointe dans l'écriture du Sefer Torah. Dans le Sidour, c'est plat. Mais dans le Sefer Torah, c'est une pointe. Il y a trois bras, c'est une pointe. Le Kouf, c'est un seul pied. Et le Resh, c'est un seul pied. Comme ça tient sur un seul pied, ça tient pas. Ça tombe. Le mensonge, il tombe. On sait qu'un jour ou l'autre, le mensonge, il va tomber. Emet, Kai, Kushta, Kai. Kushta en araméen, ça veut dire la vérité. La vérité, elle tient. Pourquoi? Emet, quand il écrit le mot Emet, c'est un Aleph. Il a deux pieds. Il tient bien. Oui. Le même, il est plat. Il tient bien. Et le Tav, il a deux pieds. Il tient bien. Le Emet, il tient. Maintenant, le mot lui-même, l'image de la lettre, Elle symbolise en vérité le message. Que quoi? Que la vérité en elle-même, elle génère ce qui tient. Et elle est ce qui tient. Le mensonge en lui-même, il est faux. La preuve, c'est que le mensonge, il est tellement faux qu'on dit que quand quelqu'un veut mentir, il est obligé de commencer par une vérité. Parce que s'il démarre depuis le départ avec du mensonge, on ne l'écoutera pas. Donc d'abord, il dit une vérité pour embrouiller la personne. Et après, il commence à mentir. Il dit, cette dimension-là, elle veut dire que le mensonge en lui-même, il n'a pas de réalité. Pour ça, on dit « En metziut lara », le mal n'a pas de réalité. Il n'y a pas de réalité bichlal. C'est comme du virtuel, c'est comme du faux. C'est comme du rien, c'est comme une vapeur. C'est comme une image. Tu projettes une image sur le mur. Il n'y a rien. Tu dis « Mais je vois la locomotive qui bouge. » Mais non, c'est un film. On a mis le projecteur. Regarde, éteins le projecteur, il n'y a plus de locomotive. Oh là là, je croyais que le train, il allait rentrer dans la salle à manger. Mais non, c'est une image projetée. Maintenant, un jour, tu vas comprendre que toute la vie, c'est une image projetée. Comment tu vas faire? Oui. Après, des fois, tu vas te dire, alors là, tu vas poser la question, est-ce que moi, je suis une image projetée ou moi, je suis vraiment quelqu'un? Alors après, les gens ne comprennent pas. Par exemple, quand tu vis quelque chose de vrai, la chose, elle est vraie. Quand tu vis quelque chose de faux, la chose, elle est fausse. Alors, puisqu'on a dit que la vérité, c'est l'expression à l'extérieur de ce que tu contiens à l'intérieur, et que c'est la cohérence, d'accord? Donc quand la personne, elle est vraie, puisqu'elle produit du vrai, alors le vrai, il nourrit. Le vrai, il nourrit. Mais le faux ne nourrit pas, ouais. C'est comme par exemple quelqu'un, tu lui as prêté 10 000 euros, il dit, bon, tu me rends 10 000 euros, il n'y a pas de problème, il prend des papiers de toilette, il les compte comme ça. Il te dit, tiens, prends 15 000. Allez, je te donne le ribit. Je te donne des intérêts en plus. S'il ne comprend pas, il dit, attends, je t'ai donné 10 000 euros, des euros. Toi, tu me donnes des papiers de toilette. Mais c'est dans la tête, tout ça. C'est dans la tête. Comme moi, j'ai cru dans tes euros. Et bien, toi, t'as qu'à croire dans mes papiers de toilette. Et après, quand tu vas au magasin, tu payes avec les papiers de toilette. Et l'autre, il va prendre les papiers de toilette, il va te rendre la monnaie sur les papiers de toilette. Après, avec ses papiers de toilette, il va aller chez son fournisseur, il va acheter encore. Et tout ça, c'est faux. Et c'est pas grave. Je dis, mais non, ça marche pas. Ça marche pas, c'est les papiers de toilette. Et tu vois, l'histoire, elle s'arrête un jour. Ouais. Il ment à sa femme. Et il va se faire attraper un jour, c'est comme ça. Tu mens à ton mari. Après, tu dis, ah, oh, c'est pas possible, pourvu qu'il est tellement bête, il comprend rien. Il va se faire attraper. Pourquoi? Parce que l'okai, ça tient pas. Ça tient pas. C'est comme si tu dis, pourquoi j'ai payé les meubles à 4000 euros? Merci beaucoup. Ah, c'est bon, là, ça va. Ah, tiens, ça aussi, d'accord. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que c'est comme si quelqu'un, il t'offre un glaçon. Ah, tu dis, merci beaucoup. Après, le glaçon, il devient de l'eau. Et après, le glaçon, il devient de la vapeur. Et après, il n'y a plus rien. Tu dis, mais où est le glaçon que tu m'as offert? il est disparu. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont biodégradables. Ils disparaissent. Il y a des paroles qui disparaissent. Il y a des engagements qui disparaissent. Il y a des business qui disparaissent. Pourquoi ? Parce qu'au départ, ce n'était pas fait pour durer. Au départ. Et même toi-même, tu le sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui ? Il dit, cette notion-là, c'est ça, shikra lokai. Le mensonge ne tient pas. Mais non, ça c'est au niveau... Bon. C'est au niveau de l'acte qui est produit. Que quelqu'un, il doit faire cet effort. Qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, oui, ça veut dire que c'est un rapport avec ce qu'il est. Et avec un rapport avec ce qu'il voulait. Donc il a fabriqué quelque chose de vrai. Maintenant, il n'y a pas de différence entre préparer une omelette, d'accord, travailler sur un produit, avoir un discours qui est cohérent, construire une conversation qui est nette. Il n'y a pas de différence. Parce qu'à chaque fois que tu produis quelque chose, à chaque fois que tu exprimes quelque chose, oui, c'est venu de quelque chose de vrai, c'est imprégné de vrai, et ça produit du vrai. D'accord ? Maintenant, si toi, pour une raison ou pour une autre, tu produis du faux, tu dis c'est pour faire plaisir, c'est pour le shalom, c'est pour faire passer un moment, mais tout le monde sait que c'est faux, mais de toute façon je dis ça, mais je ne le pensais pas, alors ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Pourquoi ? Parce qu'il s'est vide, il n'y a rien dedans. C'est rien qu'une enveloppe, c'est comme une écorce de peinture. Imagine quelqu'un, il peint une voiture, d'accord ? Il a peint la voiture, et après il a trouvé un système, il enlève la voiture. Si vous me suivez. En général, on enlève la peinture. Lui, il enlève la voiture. Mais il reste la peinture. C'est très fragile, attention. Hein. Ça fait un micron d'épaisseur. Et puis tout le monde regarde comme ça la Lamborghini. Oh. Alors il y en a, il dit, tu crois que le métal, il est épais dans les Lamborghini ? Oh là là. Alors il fait comme ça, il fait. Et toute la voiture, elle tombe. Il y a des gens comme ça. Tu les vois comme ça. Waouh. Professeur d'université. Oula, grand rabbin du Guatemala. Oui. Tu tapes dedans. Il n'y a que la peinture. Ou tu sors 10 billets de 500 euros, il n'y a que la peinture. Ouais. C'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cet effort, il n'y a pas eu ce travail de construire quelque chose. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on a, en fin de compte, le émettre, c'est la cohérence, et la cohérence, c'est de mettre du contenu à l'intérieur des choses. Parce que toi, tu es censé déjà la fabriquer chez toi et après la mettre dans ce que tu fais. Et ça, c'est ça des ma'asim amitim, des actes qui sont vrais. Des actes qui sont vrais. Maintenant, là, tu as fait à manger. Alors tu fais à manger de bon cœur. D'accord ? Après, toi, tu viens pour manger. Maintenant, tu veux manger. Tu veux pas manger, tu dis je veux pas manger. Et tu manges pas. Il y a des gens qui disent non. Oh non, je vais pas dire que j'ai pas faim. Parce que si je dis que j'ai pas faim, les gens ils vont se vexer. Maintenant, quand tu manges et que t'as pas faim, tu tombes malade. Alors, comme t'es malade après tu rentres chez toi, tu te plains. Tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai mangé ? Et en plus, ils m'ont forcé à manger. C'est quoi cette famille ? Ils m'ont obligé à manger. Mais ils t'ont pas obligé à manger. Ils t'ont proposé à manger. Maintenant, toi, tu pouvais dire oui. Et ça aurait été une bracha pour toi. Eux, ils auraient dit eh ben, je suis content de t'avoir donné. Tu aurais dit non, il t'aurait dit c'est pas grave, puisque je t'ai invité, c'était pas une salle de torture, c'était une salle à manger, d'accord ? Donc, je t'ai invité à manger, tu as dit non, et c'est très bien, et c'est pas grave, et je vais pas me vexer, tu vas pas te vexer. Toi, t'es émettre, moi je suis émettre. Oui ? Comme des fois, les gens t'appellent, ils disent écoutez, Rav, je sais pas vous appeler. Je dis écoutez, je vous ai donné le numéro de téléphone, je vous ai dit que vous pouvez appeler. Maintenant, moi, à 48 ans, quand vous téléphonez, je suis libre de vous dire je ne peux pas vous parler. Et vous êtes libre de ne pas vous vexer et de ne pas dire « Oh, tu vois, à chaque fois que j'appelle, il va être occupé, ça ne sert à rien d'appeler. » Toi, tu peux partir dans un délire de complexe que genre je te dérange. Et moi, je peux partir dans un délire de « Qu'est-ce qui se prend ?» Il croit celui-là qu'à chaque fois que j'ai mis le téléphone, je vais répondre. Ou alors, on est tous les deux normaux. On est des gens normaux. Non, ça existe encore. Oui. Tu peux dire à quelqu'un « Excuse-moi, je ne peux pas te parler. » Il y a des gens, ils appellent comme ça. Alors oui, alors, voilà. Là, je ne peux pas vous parler maintenant. Pourquoi ? Je ne peux pas. Alors, ça veut dire quoi, vous ne pouvez pas ? Ça veut dire quoi, vous ne voulez pas ? Je me fais ma psychanalyse ou quoi ? C'est moi le psychiatre, je vais me soigner. Je dis, je suis bien maintenant. Ah, mais Rav, vous n'allez pas le prendre mal. Mais je ne le prends pas mal. J'ai déjà fait mon analyse, moi. Ouais. Je ne vais pas le prendre mal. Que toi, tu es gêné ou pas gêné. Je te dis, si je peux pas, c'est pas grave. Et on va raccrocher comme des grands amis. À tout à l'heure, ou là bientôt, ou quand tu veux, c'est pas grave, tout va très bien. Donc moi, je vais être émette dans ma réaction. Toi, tu vas être émette dans ton téléphone. Et c'est comme ça la vie. Maintenant, pourquoi? Et ça, non seulement, encore une fois, c'est nécessaire, mais en plus que ça nourrit. Parce que quand tu fais des choses qui sont vraies, donc ça veut dire qu'il y a une correspondance entre ton être intérieur et ton être extérieur, ça te nourrit. Alors que le faux, le virtuel, non seulement il ne nourrit pas, mais il te pourrit. Parce que les gens, ils mentent. Après, ils mentent. Et ils remontent. Et ils remontent. À la fin, hein, ils ne savent même plus sur quoi ils mentent. Après, ils deviennent fous. Après, ils deviennent paranoïaques. Parce que tu dis, oui, vous ne me croyez jamais. Tu dis, mais tu mens tout le temps. Après, ils ne savent plus pourquoi ils mentent. C'est-à-dire, est-ce qu'ils mentent par peur? Est-ce qu'ils mentent par émotion? Est-ce qu'ils mentent par habitude? Est-ce qu'ils mentent par fabulation? Et alors, ils sont complètement décalés. Mais alors, encore une fois, le problème, c'est que l'enfant, lui, il est tout neuf. Il est neuf. Il est neuf. C'est comme si vous prenez cette feuille. Vous voyez, avant que je la plie, elle était neuve. Si vous voulez ou non. Maintenant, je l'ai pliée. Quand je la remets droite, elle sera jamais comme quand elle était neuve. C'est impossible, puisqu'elle est pliée. Mais je peux la repasser. Alors, on prend nos enfants et on repasse, et on les repasse. Mais, c'est dommage. Oui. Parce que moi, je dis aux gens, je dis, mais non, vous savez, les enfants, c'est comme la pâte à modeler. Si vous les avez tordus comme ça, vous pouvez les remettre comme ça, tant qu'ils sont devant vous. Parce que moi, je suis obligé d'être optimiste. Sinon, je vais leur dire, trouver un tabouret et une corde. Non. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois les engager à penser qu'il faut que ça s'arrange. Oui. Mais moi, je préfère leur dire, essayer d'éviter le maximum d'erreurs avant, plutôt que d'être capable de réparer après. Sinon, on passe notre vie à faire des rafistolages, des trailways, des... Ouais, c'est dommage. Ouais. 17 logique, c'est quoi? C'est que la personne, en vérité, elle est obligée, à cause de l'enfant, de se poser la question à elle-même. C'est pour ça que j'ai dit, l'enfant, c'est un rendez-vous que tu as avec toi-même. Parce qu'au fond, c'est ce que tu es. Oui, pour ça, je donne toujours l'exemple de la prière. Maintenant, toi, tu es en train de faire la prière. Alors, ton fils, il ne prie pas. Alors, tu le regardes. Après, tu vas voir le rabbin. Tu diras, monsieur le rabbin, qu'est-ce que je dois faire? Mon fils ne fait pas la prière. Je dis, bon, d'accord. Je dis, mais comment vous savez qu'il ne prie pas? Elle me dit, mais je le vois. Je dis, mais pendant que vous le regardez, vous ne priez pas. Il me dit oui. Maintenant, lui, il voit que vous le regardez. Oui, donc il voit que vous ne priez pas. Donc il fait comme vous, il ne prie pas. Toi, tu le regardes s'il prie, et lui, il regarde si tu le regardes. Donc personne ne prie. Et encore, ça, c'est rien. Il y a des synagogues, c'est les adultes qui se regardent. Alors là, c'est une synagogue, ne répond pas au kadish, il n'y a pas mignonne. Parce que chacun, il regarde, l'autre, personne ne prie. Personne ne prie. Il fait comme ça. Est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il est bien venu? Est-ce qu'il a un smalto? Il a un truc? Il a une Zetling? Il a amené la boucle en or? Il a... Chacun il regarde l'autre. Alors tu dis, Gadal, mais Gadal. Oh, il y en a un qui prie là-haut! C'est quoi cette logique? Cette logique, c'est qu'on est pris dans un monde parallèle. Ouais? Ça s'appelle le regard sur l'autre. Des fois, on est pris dans un monde parallèle qui s'appelle le regard de l'autre. Des fois, on s'appelle l'attente de l'autre. Des fois, on appelle le chantage émotionnel de l'autre. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, tu es dans le décalage. Tu es dans le décalage. Donc, normalement, toi, tu dois avoir ta place à toi, ta place d'homme. Et toi, tu dois avoir ta place de femme. Et ça, déjà en soi, c'est déjà énorme. Pourquoi? Parce que quand tu tiens ta place, tu deviens un émetteur de émettre. Tu te lèves, tu fais la prière. Tu manges, tu fais une bracha. Tu fais la bracha. Mais fais la bracha. Dis, mais je fais la bracha. Alors tu dis à ton fils, t'as fait la bracha? J'ai pas entendu, t'as fait la bracha? Fais la bracha, t'as fait la bracha? Mais il t'a jamais vu le faire la bracha. Je dis, mais je fais la bracha. Mais quelle bracha t'as fait? Ah oui, alors donc c'est ça la bracha. D'accord, donc lui il peut faire la même chose. Mais tu vois, je vous en ai raconté, dans un séminaire, on faisait des séminaires comme ça de balai, tu vois. Alors, on leur faisait des démonstrations et des grandes conférences. Et on les faisait chanter, on les faisait danser et tout ça. Et à la fin, au symposium, on m'a demandé aux gens, alors vous avez fait tchouva, pas fait tchouva, alors qu'est-ce qui vous a impressionné le plus? Elle a dit, c'est la conférence de un tel, la conférence de un tel, la conférence de un tel. Il y en a une, elle a dit, moi j'ai décidé sur moi de faire Shabbat. Pourquoi? Elle a dit, parce que j'ai vu le rabbin, au moment où on lui a amené le dessert, il a pris la pomme, il a fait la bracha, Et ce rabbin-là, il est un peu mekoubal comme ça. Donc il a pris la bracha, il a pris la pomme, il a fait la bracha, il s'est arrêté. Et Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam, Boré, Peri, Aretz. C'est-à-dire qu'il a bien réfléchi à chaque mot, il a bien pensé qu'il était en train de faire une bracha, il s'est bien mis à sa place de juif qui fait une bracha, il a fait une bracha. La personne, elle a vu ça, elle a dit « Je prends sur moi Shabbat ». T'as déjà fait une bracha comme ça devant ton fils ?
Une.
Tu dois faire toutes les brachot comme ça. Comme ça, tu dois mettre les tefillin. Comme ça, tu dois faire le Berkat Amazon. Comme ça, tu dois le faire. Ah, tu dis, quoi, il faut jouer un rôle. Mais non, c'est comme ça qu'on fait le Berkat Amazon. Comment on fait le Berkat Amazon ? Ouais, vous comprenez ce que je veux dire ou non ? C'est comme ça que tu le fais. Maintenant, tu le fais maintenant. Maintenant, tu fais le Berkat Amazon. De toute façon, tu vas le faire. Alors fais-le. Tu dis, non, je vais faire, mais en disant, bah, on rata, je vais faire, mais non, mais là, 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 mais on va faire maintenant, t'as dit, mais comment ça, qu'il est, oh, tu fais le ménage, tu fais le directeur d'école, tu fais le surveillant général, tu fais l'explorateur. C'est pas un Berkat Amazon. Fais un Berkat Amazon maintenant. Maintenant, fais le Berkat Amazon. T'as pas demandé de faire de la Kabbalah. On t'a dit de faire le Berkat Amazon. Alors fais le Berkat Amazon, c'est tout. Et maintenant, mets les tefillin. Ah, il met les tefillin. Il vérifie les emails en même temps. Ouais. Il écoute les infos. Oh, tu n'es pas en train de mettre des définis. Donc en vérité, c'est d'être soi-même pendant le moment où tu es toi-même. C'est tout. Donc déjà avec ça, tu aimais quelque chose. Maintenant même si ton enfant il n'est pas là, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Maintenant toi, tu es chez toi en train de mettre les définis et ton fils il est à l'école. Il ne te voit pas. Donc c'est pas une question d'exemple. C'est que toi maintenant tu fais attention en mettant les définis, de mettre les définis. Et lui, quand il fait la prière, il fait la prière. Mais il ne te voit pas. Pourquoi ? Parce que vos deux neshamot, elles sont reliées. Donc quand toi, tu es vrai, lui, il est vrai. Mais quand toi, tu es faux, même si tu es loin, à 300 km, lui, avec le lien, il va être faux de l'autre côté. Apprends ton téléphone, de l'école, on te dit voilà ce qu'il a fait ton fils, tu te dis mais comment c'est possible ? Enfin, il n'arrête pas de mentir. Après, tu dis c'est vrai, moi aussi, au boulot, j'arrête pas de mentir. Et l'autre, à la yeshiva, il a fait ça. Et tu dis toi, qu'est-ce que t'as fait au collège ? Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Je dis, mais comment il sait? Il ne sait pas. Donc, il y a 50% d'exemples, et il y a 50%, c'est une espèce de Wi-Fi qui vous relie, oui, et qui fait passer les messages. Vous voyez la preuve? C'est que vous voyez des gens, par exemple, qui ont fait une très belle teshuva. Ouais. Tu te dis, mais comment c'est possible, puisque leurs parents n'étaient pas religieux? Ils n'étaient pas religieux, mais ils étaient vrais. Comment non? Ils étaient vrais. Donc l'autre, qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu le vrai. Maintenant, comme il a reçu le vrai et qu'il a eu la chance de rencontrer un rav qui lui a donné la Torah, alors il est devenu vrai dans la religion. Mais si il est devenu faux dans la religion, en reniant l'enseignement de son père et de sa mère, soi-disant ils n'étaient pas religieux, ils ne comprenaient rien. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de prendre le vrai de son père, il a pris le faux de son rav. Imagine-toi. Donc il a la barbe et le chapeau, mais il est faux. Après, il ne comprend pas pourquoi ses enfants, ils sont faux. Les enfants, ils sont comme toi. C'est un extrême, bien sûr, ouais. Mais c'est assez courant. Ça peut être dans le sens inverse aussi, d'accord. Mais c'est quoi l'idée? Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'encore une fois, retenez cette phrase, parce qu'on dit beaucoup de choses, mais des fois, le pluriel, malheureusement, c'est la meilleure manière de rien retenir. C'est que l'enfant, c'est un rendez-vous que j'ai avec moi-même. D'accord. Et surtout dans la qualité de Emmet. Parce que la qualité de Emmet, c'est comme un test. Vous savez, quand vous faites un test de grossesse, c'est où vous êtes enceinte, ou vous n'êtes pas enceinte. Facile. Oui. Ou vous êtes enceinte, ou vous n'êtes pas enceinte. Après, tu dis, mais peut-être que je suis enceinte, mais que c'est marqué pas enceinte. Non. Peut-être que je ne suis pas enceinte, mais c'est marqué enceinte. Non. Tu es ou enceinte, ou pas enceinte. C'est clair pour vous? Eh bien, le Emmet, c'est la même chose. C'est ou tu es vrai, ou tu n'es pas vrai. Après, nous, notre jeu à nous, c'est quoi? C'est de fabriquer des nuances, c'est de dire oui, mais c'est pas dans ces cas-là, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ce qu'on croyait, il y a plusieurs manières de comprendre. Alors là, maintenant, tu es déjà rentré dans une deuxième phase. C'est combien tu réussis à te moquer de toi? Bon, le fait de se moquer de soi, oui, ça va donner par effet miroir que l'enfant, il va se moquer de lui et il va se moquer de moi. Puisque moi, je me moque de moi.
Vous comprenez cette logique-là?
Et c'est très puissant. C'est pour ça que c'est une très grande responsabilité qu'Hachem nous donne. Et d'un autre côté, c'est une grande chance. Pourquoi? Pas parce que, vous savez, le vrai problème dans la vie, c'est quoi? Le vrai problème, c'est de faire teshuva. Les gens disent, non, vous savez, je suis très bien, grâce à Dieu, je mange taref. D'accord. Mais non, si tu manges taref et que tu te sens bien, vraiment bien, 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 ouais, ça prouve qu'en vérité, tu es goy. Donc, c'est pas grave. Donc, tu es un bon goy. C'est bien. Si tu manges taref et que tu te sens mal, ça veut dire que tu es un juif qui est en mal d'identité. Ouais. Donc, mange kasher. Non, j'arrive pas. Bon, alors attrape une maladie. Parce que tout ce qu'on fait à contre-gré, ça donne des maladies. D'accord? Donc en vérité, c'est ça. C'est ou t'es goy ou t'es juif. Tu dis, mais comment je peux être goy puisque mon père et ma mère sont juifs? Le Rajba, il dit ça. Le Rajba, il dit que si un homme, on lui explique, on lui montre, on le met en situation, on lui fait des démonstrations, on lui fait tout, et qu'il ressent rien, mais rien de rien, il a dit, ça prouve qu'il n'était pas au Arsinaï. Loi, il y avait Arsinaï. Il n'était pas au Mont Sinaï, au don de la Torah. S'il n'était pas au Mont Sinaï, alors qu'au Mont Sinaï, il y avait les vivants et les morts. Il y avait ceux qui étaient nés et ceux qui n'étaient pas nés encore. Toutes les Neshamas d'Israël étaient au Har Sinaï. S'il n'était pas au Har Sinaï, c'est pas grave. C'est un goy. Oui. Et donc le goy qui est né en Bretagne, oui, il cherche la vérité, il va se rapprocher du peuple, il écoute les cours sur Internet, il achète les livres sur la Bible, il veut absolument manger kasher. Tu m'en fais Mathieu. Enfin Mathieu, pourquoi tu compliques-tu la vie? Non, j'ai un type comme ça. Il est incroyable. C'est une femme. Elle était avec un monsieur juif. Bon. Elle est tombée enceinte. Et ce monsieur, il a laissé tomber, il est parti. Elle a rencontré un monsieur, qui est arménien, d'accord, qui n'était pas juif. Il a dit, j'accepte. Ah non, elle avait deux enfants et elle était enceinte. Elle avait deux enfants et était enceinte, mais ils étaient tout petits. Il s'est marié avec cette femme et il a élevé les enfants. Mais non, elle n'était pas religieuse du tout, ça ne la dérangeait pas d'épouser un goy. Le goy lui a dit, écoute, tu es juif, c'est pas normal, tu n'es pas cohérente. Alors on va mettre les enfants en Talmud Torah, on met le kasher à la maison, on fait la bar mitzvah, on fait la brit mila. C'est lui qui a poussé, et elle disait, moi je m'en fous. Et elle les poussait, et lui il poussait, et l'école juive, et il travaillait plus, ils n'avaient pas de parnassa. Il a travaillé pour payer l'école juive. Tu dis, mec, il est fou celui-là, elle s'en fichait. Attends maintenant, lui il est devenu maintenant, cette famille, elle est devenue le pôle. Maintenant, le beau-frère, ils ont fait échouer avec lui, eux qui sont juifs. Ouais. L'autre beau-frère, ils ont fait. Les parents, ses beaux-parents à lui qui sont juifs, ils ont fait échouer à cause de lui. Regarde qu'est-ce qu'il a fait ce gars dans une maison. Et après, et sa femme, à chaque fois qu'elle emmenait voir un rabbi, oui, un admour ou quoi, un mekoubal, il lui disait, est-ce que je dois me convertir? Le rabbi lui disait, mais tu es juif. Il lui dit, toi, tu es une neshama juive. Il voyait, ouais. Bon, après, il a fait la démarche, il est en train de se convertir, mais tu comprends rien, on est dans un monde de fous. Ouais, que l'autre, il est juif de père et de mère depuis 44 générations, et il mange les crustacés avec une sensibilité, mais incroyable. Et l'autre, ouais, il te dit, j'arrive pas à manger pas cachère. Je sais que je suis pas converti, mais genre, ça me passe pas. J'ai jamais, moi-même le cochon, j'ai jamais mangé de ma vie. C'est bizarre. Un normand ou un breton. Cette logique, ça veut dire qu'Hachem, il redistribue des neshamot. Il fait comme ça, il fait tra, tra, ça tombe là-bas. Oui. Maintenant, c'est quoi l'intérêt? C'est pas de dire pour le goy de juif. C'est pour de dire, est-ce que quelqu'un, il arrive à être cohérent avec lui-même? Pour ça, toujours Rachid dit, Velibi Omerli, mon cœur me dit. À l'intérieur, il y a quelque chose. Il dit ça, c'est une logique d'enfant. Que quelqu'un, il arrive à écouter une impulsion positive qui vient de l'intérieur, c'est une logique d'enfant. Écoute tes impulsions positives. Ah ben non, quand tu es un enfant, c'est naturel. Quand tu es un adulte, ça veut dire que tu as fait le tri, tu as appris à te connaître, tu connais ton Yetzerara, tu sais ce qui est négatif en toi, tu sais quand est-ce que tu te moques de toi, quand est-ce que tu te respectes, quand est-ce que tu t'assumes, quand est-ce que tu te maîtrises. Il y a un travail qui a été fait. Mais si tu retrouves ce qu'on appelle la page toute, oui, c'est comme les tzadikim, vous allez voir des tzadikim, ils connaissent tout le chasse, tout le Talmud par cœur, ils ont une force de calcul de 19 ordinateurs, et ils te parlent avec une simplicité. Tu lui dis, Avalarav, ou Mechalel Shabbat, il te dit, Mechalel Shabbat? On dirait qu'il tombe de la lune. Comment un type qui a un cerveau tellement puissant, ouais, tu le regardes, on dirait un simplet. sais pourquoi? Parce qu'il ne veut pas compter sur la puissance de son cerveau. Il veut compter sur sa spontanéité d'enfant. Il a gardé sa spontanéité d'enfant avec un cerveau de 4 fois Einstein. Ça, je vous avais dit à l'époque avec l'artiste, vous rappelez l'artiste? Il y avait un grand peintre, je ne sais plus qui, il avait dit, il y a deux personnes qui savent peindre, qui savent dessiner vraiment, qui ont le trait vrai. C'est les enfants et les artistes. Maintenant, au milieu, il y a quoi? Il y a les techniciens. Maintenant, un enfant, il sait dessiner. Il a bien dessiné. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu l'envoies dans une école de dessin. Et il fait des années, il fait des beaux-arts, et il apprend à dessiner. Maintenant, il dessine de folie. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sortent des beaux-arts, mais il n'y a pas beaucoup qui sortent des artistes. Pourquoi? Parce qu'au début, tu as la spontanéité. Après, tu apprends la technique. Maintenant, l'artiste, c'est quoi? C'est celui qui va dépasser la spontanéité, oui, qui va dépasser son côté technique pour retrouver une spontanéité au-delà de la technique. Par exemple, quand vous regardez les dessins de Picasso, vous vous dites, il ne sait pas dessiner ce mec-là. Mais quand vous regardez les dessins qu'il a fait classiques, mais tu te dis, mais on dirait une photo. Alors tu te dis, mais un type qui savait tellement bien dessiner, pourquoi il a fait des cubes ou là des trarouettes? Tu dis Guernica, tu dis c'est pas possible, ils ont découpé la photo ou quoi? Vous voyez cette logique ou non? C'est quelqu'un qui sait dessiner, mais il va dessiner de sa manière à lui. C'est pareil. Le Maharal de Prague, il savait étudier le Kom Rashi, mais il a écrit les Hidushim du Maharal. Parce qu'il a retrouvé qu'est-ce qu'il y avait de propre à lui dans sa Neshama et qu'il devait apporter dans le monde. Ça va? Et le Ramban, il a amené sa part à lui. Mais la part de la personne, c'est quoi? C'est sa spécificité. Sa spécificité, elle est marquée dans la Neshama. Ben, la Neshama, elle exprime les choses. Donc le vrai problème, c'est que nous ne laissons pas sortir la lumière de la Neshama. C'est ça le Da'at. Que le Da'at, il peut devenir un écran, oui, parce que tu crois que l'intelligence, tu crois. Mais si cette intelligence, tu n'es pas capable de la sublimer avec ta sensibilité, avec ta sincérité, alors tu es devenu un technicien. Alors il y a des techniciens du dessin, c'est des architectes, il y a des techniciens du travail qui appliquent des règles préétablies, et il y a des techniciens de la vie qui savent ce qu'il faut dire, même s'ils ne le pensent pas, qui savent ce qu'ils doivent penser, même s'ils ne le pensent pas. C'est des techniciens de la vie. Ils sont très au point, mais il leur manque un élément principal, ils ne sont pas sincères. Mais c'est des techniciens. L'autre, il te dit, je sais très bien ce qu'il faut pour draguer une femme, et je vais la draguer. Je sais ce qu'il faut pour la rendre heureuse, et je vais la rendre heureuse. Je sais très bien ce qu'il faut pour embrouiller le client, et je vais l'embrouiller. Je sais très bien ce qu'il faut pour manipuler le type, de lui dire blanc, de lui dire noir, de lui dire blanc, de lui dire noir. Après, quand il ne sait plus, tu lui dis blanc, ou la noire. Et tu fais ce que tu veux avec lui. Il sait faire ça. D'accord. Mais pourquoi tu ne vas pas carrément lui dire la vérité? Ça ne marche pas. Tu sais pourquoi? Parce que comme tu es faux, tu ne crois pas à la vérité. Mais quand tu es vrai, tu crois à la vérité. Donc en vérité, c'est quoi le mensonge? Le mensonge, c'est ce que tu mets en plus pour cacher ta peur de la vérité. C'est quand les gens qui parlent beaucoup. Ouais. Vous n'avez pas remarqué un truc? Quand vous allez vous passer la douane, soit quelqu'un m'avait dit, quand tu passes la douane, tu parles le moins possible. Parce que les gens qui ont quelque chose à cacher, ils parlent toujours plus. Au fait, monsieur le douanier, est-ce qu'il faut déclarer ça? Sur mon passeport, j'ai ce tampon-là, ça veut dire quoi? Il fait beau en ce moment, comment ça se passe à Montréal? Alors l'autre dit, vous avez quelque chose à déclarer? Alors déclarez-le. Ah non, mais je disais ça comme ça. C'est là qu'il s'intéresse à ton cas. Combien de jours? 4 jours. Vous venez? Ouais, j'ai l'affaire. Faire des cours. Bon séjour. Ça y est. Pourquoi tu rajoutes? Si tu rajoutes, c'est pour cacher quelque chose. Si tu rigoles trop, c'est pour cacher ta tristesse. Si tu parles trop, c'est pour essayer de faire oublier où est-ce qu'il est l'essentiel. Si tu te la joues trop, c'est pour créer une carapace pour cacher le ver de terre qui est à l'intérieur. Le trop, c'est un message. Le trop, c'est un message. D'accord? Pourquoi? Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a trop, c'est parce qu'il n'y a pas de cohérence. T'as de la peine? Eh ben tu pleures. Mais si tu fais une crise de dépression de 4 mois, c'est pas que t'as de la peine. c'est que tu as un déficit existentiel qui est très grave. Tu me dis, non, tout va bien. Tu peux partir, mais je vais mourir, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai perdu le balai. Pour le balai, tu fais ça. Oui, mais ça fait de la peine, c'est comme 3,50€, tu fais ça. Il doit y avoir autre chose. T'as pas eu un coup de fil de ton ex ou là quelque chose de sérieux? Quelque chose de sérieux. Pas quelque chose de débile. Oui? Pourquoi? Parce qu'il y a une proportion, toujours, entre ce que tu exprimes et ce que tu ressens. Entre ce que tu penses et ce que tu dis. Donc, un, il est révélateur de l'autre. Maintenant, encore une fois, je sais pas, j'essaie de vous rassurer, mais il n'y a rien de grave. Rien. Rien de grave. Tout est absurde. T'as pas vu que le mec qu'on vient de lui annoncer qu'il a un cancer, c'est lui qui te dit, ne t'en fais pas, ça va aller si Dieu veut. C'est lui qui est malade, c'est lui qui te rassure. Celui-là, il vient de perdre son père. Maintenant, il remonte le moral à toutes les gens qui viennent pour le... Et il leur fait du moussard, et si Dieu veut, ça va aller, Dieu est grand, et là où il est bien. Les gens, ils pleurent, et lui, il les rassure. Ça veut dire, n'aie pas peur que les capacités d'assumer, tu les as. C'est seulement si tu les acceptes avec cohérence. Mais si tu prends l'habitude de vivre en décalage, et c'est ça le décalage, c'est le mensonge, oui, alors tout pèse. Tout est dur. Tout est lourd. Tout est difficile. Tout est difficile. Tout. C'est comme si tu veux pas d'aller d'ici à Moscou à pied. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Mais si tu es obligé d'y aller, eh bien tu vas y aller. Et tu vas dire, mais Paris-Moscou, mais c'est énorme. Mais non, de toute façon, tu peux pas faire plus qu'un pas après l'autre. Donc tu l'as fait celui-là ? Ouais, tu l'as fait. Après tu dis, tu l'as fait celui-là ? Ouais, je l'ai fait. Après tu l'as fait celui-là ? Ouais, mais ça va durer combien de temps ? Eh bien ça te parle le temps de 7 jours. C'est comme si je te dis, va vider cet entrepôt. Il y a 10 000 cartons. 10 000 cartons ! Tu dis, oui, mais de toute façon, tu vas les prendre un par un. Hein. Comprenez ou non ? C'est comme si un bébé est né, tu dis, tu sais que tu vas lui changer les couches 5 000 fois. Tu dis, laisse-le dans le ventre de sa mère. On le sortira pour la bar mitzvah. C'est comme ça. Il sort, il vient de naître, il dit, Mazal Tov. Celui-là, il va t'énerver peut-être 128 244 fois jusqu'à son mariage. T'es au courant, là? Ben, c'est ça, hein. C'est pas grave. Tu vas dire, oh, alors quoi? Alors, ça veut dire que sur l'échelle de Nerver, parce qu'il y a l'échelle de Richter et l'échelle de Nerver. Sur l'échelle de Nerver, ce gosse, il va atteindre le 9 sur l'échelle de Nerver. Bref, c'est une grande échelle de la nervosité. Oui? Tu dis, mais non, on va pas te demander de faire une crise de nervaire de 9 en une fois. On va t'étaler, oui, une dose de nervaire sur 20 ans. C'est ce qu'on appelle l'étalement des paiements. C'est le bon Dieu qui a créé le crédit. D'accord? Il t'étale les paiements. Maintenant, quand toi, tu payes un crédit, oui, tu dois pas t'énerver. Tu sais comment ça se passe, les gens? Il dit, bonjour, je voudrais 20 000 euros. Oui, bien sûr, nous prêtons les 20 000 euros. Donc, tu signes un prêt de 20 000 euros. Tu marques 20 000 euros, super. Après, il t'envoie l'échéancier. Tu fais le calcul. Tu dis, excusez-moi, mais je vous rends 30 000. Il dit, ben, il y a des intérêts. Tu dis, enfin, comment ça, il y a des intérêts? Il y a des intérêts. Alors, la banque, elle dit, mais il y a intérêt. Il y a intérêt. Il y a des intérêts. Eh oui, c'est notre intérêt de vous prêter. Mais notre intérêt, c'est vous qui le payez. Parce que c'est votre intérêt d'emprunter. On a un intérêt commun. C'est ça l'intérêt. Maintenant, toi, tu dois dire, mais comment vous ne faites pas cette mitzvah de prêter sans intérêt? Et tu dis, écoutez, monsieur, on est une banque, on est goy, on vous prête avec intérêt. C'est normal, on vous prête, c'est le business, on vous prête. Toi, tu dois dire, ah, Baruch HaShem que j'ai trouvé qu'on me prête avec intérêt. Pourquoi? Parce que tu vois, tu croyais que la vie c'est gratuit. C'est pas gratuit. Ta femme, elle t'a prêté du crédit, d'amour. C'est avec intérêt. Ton mari te prête un crédit. C'est avec intérêt. Tu vas payer les intérêts. La gentillesse, la douceur, la sensibilité, la patience, l'écoute, les petits cadeaux, les vacances, la carte bleue, la voiture qui s'est explosée. C'est les intérêts. Il y a des intérêts. C'est normal. Mais tu payes avec les intérêts. Qui c'est qui ne veut pas payer les intérêts? Celui qui croit que c'est gratuit. Mais il y a des intérêts. C'est pas grave. Oui. Maintenant, Baruch HaShem, tu payes tous les mois. Voilà, tu payes ta maison, tu payes ta voiture. Tout va très bien. Ouais, tu dis pas. Chaque mois, tu dis. Oh. Non, tu regardes certaines maisons, tu te dis, Baruch HaShem que j'ai trouvé un système pour la payer. Et bien la vie, c'est pareil. La vie, c'est un crédit, et il y a des intérêts à payer. Maintenant, comme tu acceptes qu'il pleut, tu acceptes que les enfants ils grandissent, tu acceptes que ta femme elle change, tu acceptes que ton mari vieillit, et il y a des intérêts, et grâce à Dieu, c'est la vie, c'est comme ça la vie. Et les gens, non, ils refusent, non, c'est pas normal, comment ça se fait que tu as changé? Écoute chérie, je peux pas avoir 20 ans pendant 20 ans. Après 20 ans, j'ai 40 ans. Ils croient pas les gens. Oui, ça maigrit, t'as truqué, le corps il a changé, nanana. Mais je sais pas, moi tu croyais que t'avais épousé une femme en plastique ou quoi? Elle change. Tu lui fais un bébé tous les ans et tu lui dis ne bouge pas. Et le lendemain de l'accouchement, la même taille de jeune fille. Épouse une grosse, comme ça tu seras pas déçu. D'accord? Ça veut rien dire, c'est normal. Toi aussi t'as changé, c'est normal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, la capacité à accepter la réalité, c'est d'être en phase avec la réalité. Or, comment on dit être en phase en hébreu? Mat'im. Mat'im. C'est mat'im. Ouais. Et mat'im, c'est les mêmes lettres que emet. Donc, quand tu refuses d'être cohérent avec la réalité, c'est qu'en fait, tu refuses de l'emet. Tu refuses que ton fils, il est comme ça, que ta fille, elle est comme ça, que ta femme, elle est comme ça, que ton mari est comme ça, que la vie, elle est comme ça, et que le bon Dieu, il est comme ça. Donc en vérité, tu n'as pas un problème de émettre. Tu as un problème d'adhésion. Tu as un problème d'acceptation. Tu as un problème de fonctionnement. Maintenant, quand tu exprimes ta difficulté à t'adapter, oui, ce décalage entre le fait que tu es obligé de t'adapter et le fait qu'au fond, tu ne t'adaptes pas, oui, ça s'appelle le mensonge. Et quand tu montres ça à ton fils, tu lui fais une symphonie de mensonges en sol majeur. Et lui, il l'apprend par cœur. Alors toi, tu ne t'adaptes pas à ton travail, lui, il ne s'adapte pas à l'école. Toi, tu ne t'adaptes pas à ta femme, lui, il ne s'adapte pas avec ses amis. Toi, tu ne t'adaptes pas à toi-même, et lui, il est mal dans sa peau. C'est incroyable. Je te dis, si tu arrives à cette clairvoyance, ouais, tu dis, mais il me ressent trop. Mais non, c'est quoi le piège? C'est qu'il ne te ressemble pas forcément dans les mêmes domaines. Je ne sais pas si vous me suivez. Comment il est venu chez moi? Il m'a dit, Rabbi Chetrit, je suis très en colère parce que ma femme n'est pas pudique. Elle n'est pas la pudeur. Ouais. Je lui ai dit, toi, tu es Shomer Shabbat? Il m'a dit, non. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta question? Il m'a dit, mais quel rapport? Tu comprends quel rapport? Ça s'appelle les montants compensatoires. Toi, tu es déficit de ce côté. Elle est déficit de ce côté. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que au moment où vous étiez fiancé, tu lui as demandé la pudeur? Il me dit, oui, j'ai exigé. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle t'a demandé, toi? Elle m'a demandé de faire Shabbat. Bonnet blanc, blanc bonnet. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est que l'incohérence, elle n'est pas forcément dans le même domaine, mais elle est de la même intensité. Donc elle est incohérente sur ça, et toi, tu es incohérent sur ça. Mais c'est comme ça la vie. Puisque le bon Dieu, il t'envoie des miroirs d'incohérence pour que tu trouves la tienne. Donc, et c'est ça la teshuva, que quelqu'un, il se met au clair. Et bien avec l'enfant, c'est pareil. Et il n'y a pas mieux que l'enfant. Pourquoi encore une fois? La preuve, c'est que quand l'enfant, il a fait une bêtise, c'est un truc bizarre. Pourquoi est-ce que quand l'enfant, il fait une bêtise, ce sont les parents qui sont convoqués à l'école? Ça vous choque pas, ça? Non, c'est bizarre. Le gosse, il a fait une lourdeur. Mais c'est son problème. Mais qui se débrouille? Maintenant, il a triché ou là, il a volé. Alors, on convoque les parents. Écoutez, il faut qu'on vous parle tout de suite. Alors, votre fils a fait ça. Toi, tu dis, écoutez, monsieur le directeur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ben voilà, il a volé. Et oui, on l'a attrapé, il a volé. Tu dis, écoutez, monsieur le directeur, moi, je n'ai jamais volé de ma vie. D'accord? Donc, pourquoi vous venez me saouler avec les problèmes de ce brel? Qui se trouve accidentellement ou biologiquement mon fils? C'est régler ça avec lui, puisque c'est lui. Pourquoi tu viens me voir à moi? C'est vrai que c'est bizarre, non? Il travaille pas à l'école. Et alors? C'est son problème. Vous êtes les parents. Moi, mon père, une fois par an, je lui disais, papa, je passe de classe. Il me disait, c'est bien mon fils. Jamais il a vu un bulletin. Il savait même pas que ça existait, une réunion de parents d'élèves. Il savait même pas que ça existait. Et on a fait la scolarité. On a travaillé.
Et nous, on est là, on les suit jour par jour, au millimètre près, les cours particuliers, les trucs, les devoirs, les leçons, trucs, les affaires, les cadeaux, les babas, la psychologie, les livres de psychologie, les conférences sur l'éducation. Et est-ce qu'on est plus efficace qu'eux ? Bien. Oh, peut-être la génération a changé, elle a besoin de compétences. Donc c'est quoi l'idée ? Avec Luc a compris, c'est bien. Donc c'est quoi l'idée ? C'est qu'une personne, elle essaie d'accepter que quand il est devant le directeur et devant l'enfant, et qu'il est là dans cette situation, si vraiment il a un regard juif de la situation, c'est-à-dire qu'il comprend que ça le concerne, alors les mots du directeur, ils vont lui frapper à l'oreille, ils vont lui dire « Eh ben, essayez de vous mettre à sa place !» Il dit « Oui, je crois que je vais faire ça. Je crois que je vais essayer de me mettre à sa place. Je vais essayer de me mettre à sa place. » Tu sais pourquoi ? Parce que t'es à sa place. Lui, c'est toi à 8 ans. Seulement à l'époque, ton père, il a fait ce que t'as failli faire maintenant. Il t'a dit « Débrouille-toi. » Mais maintenant, toi, quand tu vas t'occuper, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te mettre en cohérence avec son problème à lui. Son problème à lui, tu sais d'où il l'a hérité, puisque c'est toi qui l'as conçu. Sauf si tu as des doutes sur le... Mais a priori, c'est le tien. D'accord ? Donc maintenant, quand tu le regardes à lui et que tu essaies de te mettre à sa place, ça veut dire que tu veux régler le problème avec lui. Donc maintenant que tu te casses la tête, tu dis qu'est-ce qui s'est passé ? Comment je vais lui parler ? Comment je vais trouver les mots ? Est-ce que je dois l'attaquer de manière frontale ou indirecte ? Est-ce que je dois lui faire des allusions ? Mais ce travail que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de faire teshuva sur son problème. D'accord ? Donc qu'est-ce qui te reste ? Il te reste à penser que tu as une part dans ce problème. Donc tu peux penser que tu es en train de faire teshuva sur ton problème qui est apparu chez ton fils. Et c'est très bien. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai remarqué statistiquement que les parents qui s'occupent de leurs enfants évoluent à titre personnel. À part qu'ils évoluent à titre de parents, ils améliorent leur capacité de parents. À part qu'ils évoluent à titre de couple, parce qu'ils créent une solidarité, une coordination entre eux, puisqu'ils en parlent, ouais. À part ça, ils évoluent personnellement. Comme les couples qui s'occupent de leur couple, ils évoluent personnellement. Comme les gens qui s'occupent d'eux, ils évoluent personnellement. Vous voyez cette logique-là ? Voilà. Donc quand moi je vais accepter que c'est ça la base du émet, c'est cette forme de cohérence que quelqu'un doit avoir, et que je suis un émetteur de cette logique-là, alors après qu'est-ce que je fais ? Je regarde les différentes facettes du mensonge. Alors le mensonge, le plus gentil, le plus sympathique, c'est la fabulation. D'accord ? C'est l'enfant qui fait des rêves, qui fait des trucs. Alors est-ce qu'on a le droit de casser les rêves d'un enfant ? Alors Dessler, il donne un exemple. Il dit, c'est comme un enfant qui est dans la baignoire ou dans une rivière ou une flaque d'eau et il joue avec un bateau, d'accord ? Mais il n'y a pas de bateau, c'est une planche de bois. Vous savez, un gosse avec un bout de bois, il a déjà fait un paquebot, il a fait déjà une bataille navale, il a fait... C'est un bout de bois. Alors, il pousse, et il est parti, l'armada. Et toi, tu viens, tu lui dis, mais t'es brel, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de port, il n'y a rien du tout, il y a un bout de bois. Qu'est-ce qu'il a fait ? Tu lui as cassé son rêve. Maintenant, le problème. Tu dis, mais c'est vrai ou c'est faux ? Est-ce que je dois laisser le gosse fabuler sur son armada alors qu'il s'agit d'un bout de bois, hein, ou je dois le ramener à la réalité pour qu'il apprenne la vérité ? La question est de savoir, est-ce que l'enfant, il a besoin de l'illusion ? Tu dis, l'illusion, c'est la mère du mensonge. D'accord ? Et l'imagination, c'est la mère de l'intelligence. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant ? Il faut de l'imagination ou de l'illusion ? Oui, mais comment tu vas distinguer les deux ? Par exemple, tu as des enfants qui sont rêveurs. Tu dis, ben écoutez, il manque de concentration, il n'est pas dans la classe, il ne suit pas le cours toute la journée. Il y a des filles comme ça, en classe très longue. Mais rien, rien, rien. Tu dis, bon, c'est E1, bon, c'est E2, oh, CM1, oh, quatrième, oh, terminale. Tu dis, oh, là, elle est en phase terminale, il faut qu'elle fasse quelque chose, c'est pas possible. 10 ans de rêve. Il y a deux catégories. Il y en a, ils écoutent rien, mais ils comprennent tout, ils retiennent tout, à l'interro. Le prof, il fait je comprends rien. Et il y en a vraiment qui sont dans un monde parallèle. L'imagination, c'est la capacité d'anticiper, c'est la capacité de créer des schémas, c'est la capacité de voir loin. Donc c'est nécessaire. Il faut. Par exemple, on raconte des histoires aux enfants pour développer leur imagination. On leur demande eux-mêmes de trouver des liens pour créer leur imagination, pour développer leur imagination. C'est nécessaire l'imagination. L'illusion, c'est un problème. Alors, comment on va distinguer entre l'illusion et l'imagination ? Tu laisses les enfants jouer, ils ont besoin de jouer. Ouais. C'est bien pour eux, ils le font, ils le développent. Donc ils sont en train de vivre quelque chose, en réalité, qui leur appartient. C'est leur monde à eux. Maintenant, puisqu'ils sont adaptés à leur monde à eux, laisse-les. Ah, tu dis, mais c'est pas bien qu'un gosse, il joue avec un bout de bois, il croit que c'est un bateau. Mais toi, tu joues avec un magasin et tu crois que t'es riche. Et ce magasin, il te coûte deux fois ce qu'il te rapporte. Donc t'as une illusion que tu gagnes de l'argent, en vérité, tu en perds. Et là-bas, pourquoi ? Parce que tu veux montrer à tout le monde que tu as un magasin. Mais tu perds de l'argent, va être employé, tu gagnes le même prix, de toute façon, tu gagnes le même salaire. Alors, quelle différence entre lui qui joue avec son bâton et toi qui joue avec ton magasin ? Et toi, t'arrêtes pas de t'engueuler avec ta femme, mais tu dis, écoute chérie, quand on sort, on fait le sourire. D'accord ? Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'illusionnes que ton couple, il va bien. Au lieu de régler tes problèmes de couple, tu établis un scénario pour jouer le rôle du couple qui va bien. Mais c'est la même énergie qu'il faut pour ne pas faire la gueule quand on est invité dans les bar mitzvot. C'est la même énergie qu'il faut pour pas faire la gueule quand on est à la maison. Alors viens, on ne fait pas la gueule carrément. Comprenez ou non ? Parce que quand, vous savez combien de fois des gens, ils divorcent, on dit, c'est pas possible, mais on les voyait tout le temps, souriants, positifs. Et c'est la même énergie. C'est très bizarre. Pourquoi les gens, ils ont l'énergie d'être positifs et tout ça devant tout le monde, ils n'ont pas l'énergie d'être positifs entre eux. Dès qu'ils rentrent à la maison, on se sent, Alors, lui, il dit, tu sais quoi, on fait comme s'il y avait du monde. Ah, tu dis, oui, mais devant les autres, c'est normal qu'on se retienne. Ah bon ? Et devant le bon Dieu, tu ne te retiens pas ? Quelle différence ? Parce que qu'est-ce qui dérange ? Le regard de l'autre. Mais le regard de l'autre, c'est quoi ? C'est une conscience. Mais la conscience de toutes les consciences, c'est le bon Dieu. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Tu vas être vrai. Ah, si tu fais ça, alors qu'est-ce que l'enfant, il voit ? Il voit, tu t'engueules à la maison, et à la bar mitzvah, t'es gentil. Alors qu'est-ce qu'il dit, lui ? À l'extérieur, tu fais le chesed, et le chesed, et le chesed. Et à la maison, la barre de fer. Regarde ce que tu lui as appris. Oui ? C'est pour ça que ce qui touche le plus l'enfant, en fin de compte, c'est l'incohérence et les excès d'incohérence. Par exemple, une fois, j'ai dit à quelqu'un, je lui ai dit, si tu mets une tannée à ton fils, ne lui mets jamais une tannée en rigolant. Parce que lui, il va dire, mais t'es un malade mental. C'est-à-dire, tu kiffes de me frapper. T'es un agent de la Gestapo. Comment non ? Lui, il comprend que quand t'es en colère, tu lui mets une tannée. Et quand t'es content, tu es souriant. C'est clair pour lui. Il peut pas mélanger les gens. Il peut pas mélanger les gens. Parce qu'il voit que t'es pas cohérent. Il fait le contraire, oui ? Et ça ne le dérange pas. De temps en temps, il y a un coup de colère, c'est un coup de colère, ça existe dans la nature humaine, il comprend. Parce que tu es vraiment en colère, et que tu es en colère, et c'est très bien. Et là, tu es content, et ça se voit que tu es content. Non, non. Par exemple, c'est Shabbat, tu fais la tête. Bon, tu as une bonne raison. Disons que tu as une bonne raison. Le Shabbat d'après, tu avais une autre bonne raison. Le Shabbat d'après, tu avais une autre bonne raison. Donc, qu'est-ce que tu croyais, toi ? Tu disais, eh ben, quand j'avais des bonnes raisons, je faisais la tête. Non. Lui, qu'est-ce qu'il a retenu ? Le Shabbat, c'est la Ramma. C'est la mort. Alors je sors avec des copains parce qu'à la maison, c'est la mort. Alors le père qui est à moitié dans le coma parce qu'il est fatigué, la mère qui est au bord de l'hystérie parce qu'elle a préparé 74 salades, personne ne mange, les gosses qui sont levés de la table juste après le poisson. Alors l'autre, il est là, il dit, écoute, je veux dire, chez mon copain Christian, c'est vachement plus équilibré comme ambiance. C'est Shabbat. C'est Shabbat. Shabbat, c'est la période la plus longue que tu vas passer avec tes enfants. Tu réfléchis bien dans la semaine, tu les vois combien de temps ? Une heure ou la deux ou la une demi-heure. Donc Shabbat, ils te voient. Et toi, tu les vois. Donc maintenant, tu peux en profiter, soit pour imprégner un maximum, oui, soit le contraire. Je veux dire, moi, j'étais marié depuis au moins 10 ans, 15 ans. Et un jour, je ne sais pas, j'ai eu une lumière comme ça. J'ai été invité chez mes parents, j'ai mangé la salade cuite. Et j'ai fermé les yeux. Et j'ai regardé les assiettes. C'était des assiettes simples, oui. C'est une salade cuite normale, il n'y avait rien de spécial. Mais dans ma tête, le Shabbat, c'était Versailles.
Je ne sais pas si vous me suivez. Tu sais, des fois, comme dans les films, ils vous mettent un effet comme ça, de lumière un peu floue, tu vois, tout féerique, tout extraordinaire. Alors j'ai vu que c'était des assiettes à 3 francs, hein, et une petite salade. Mais il y avait une Shekhinah dans le Shabbat. C'était marqué maintenant. Comprenez-vous ? Maintenant, c'est ça que tu crées dans la maison. Tu dis, non, je vais les éclater, je vais leur mettre 44 trucs, et je vais inviter plein de gens, et je vais mettre un 20, 300 euros. Non. Mets l'heure de la Shekhinah dans le Shabbat. Avec des salades bidons, il y a une Shekhinah. Où tu leur mets 4 repas traiteurs, et on est tous comme des brèves, comme ça, avec un mal d'étouffement. Après, tu te dis, c'est marrant, le Shabbat, ça ne les touche pas. Bah, qu'est-ce qu'ils ont vu ? De la bouffe, le coma, après la DAF. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils n'ont pas senti. Donc, quand tu fais Shabbat, oui, eux, ils voient Shabbat. Quand tu fais les fêtes, eux, ils voient les fêtes. Quand tu fais la prière, ils voient la prière. Donc en vérité, encore une fois, c'est pas une question d'argumentaire, c'est pas une question de développement, c'est même pas une question de connaissance. C'est une question de mais maintenant vous avez compris, de cohérence, mais qui est encore plus forte. Pour ça que Rav Dessler il dit que la différence, c'est qu'un juif, il doit penser que à Emet Zé Ametsiout. Et pas le contraire. Que Ametsiout Zé Emet. Qu'est-ce qu'ils pensent dans la rue ? Qu'est-ce qu'ils pensent les scientifiques ? La réalité, c'est ça la vérité. N'essayez pas de me tricher. Tout ce qu'on peut prouver scientifiquement, tout ce qu'on peut constater, tout ce qu'on peut mesurer, tout ce qu'on peut calculer. Donc ça s'appelle la réalité. Ils disent, la réalité, c'est le Emet. C'est ça la vérité. La vérité. Nous, on dit le contraire. Nous, on dit, il faut arriver à ce que le Emet, c'est ça la Metsiout. C'est quoi le Emet ? T'as pris une alarme comme ça. On t'a dit, un Adam met elle ken chote, un homme ne meurt que s'il a fauté. Tu dois avoir dans ton cœur qu'un homme, il ne peut pas mourir s'il n'a pas fauté. Ce n'est pas la maladie qui l'a tué, c'est la vera. Tu dois penser comme ça. Tu vois, tu dois avoir ici mida keneged mida. Tu sais que le mal, il va amener le mal. Tu sais que le bien, il va amener le bien. C'est une règle de la nature pour toi. Oui. On te dit, le Shabbat, il y a une sainteté spéciale. Tu dis que le temps de Shabbat, il est différent. On te dit, le jour de Pessah, il y a une libération. Ça veut dire que c'est contenu à l'intérieur. Le jour de Kippour, il y a un pardon. Ça veut dire que le Kippour, l'horaire de Kippour, le temps de Kippour, l'air de Kippour, il est pardon. Tu dis, mais enfin, tu sais, c'est de la culture, c'est une forme de conventionnement culturel qui permet une certaine sensibilité. Laisse ta psychiatrie de côté. Nous, ce qu'on a appris, c'est du Emet, c'est la Metsiout. C'est ça pour nous, la Metsiout. Maintenant, c'est marqué Hachem Ohev et ta Metsiout. Dieu, il aime la réalité. Dieu, il aime la réalité. Alors qu'on sait que Dieu n'a pas de sentiments. Le bon Dieu, il n'est pas comme nous, genre, j'aime bien, j'aime pas, je peux pas le sentir. Non. Aimer, on a expliqué déjà 1 million de fois que aimer, c'est faire un. Ça veut dire que quand Dieu, il aime la Metsiout, ça veut dire que Dieu, il fait un avec la Metsiout. Or, la signature de Dieu, c'est Emet. Donc, si Dieu, il est Emet et il fait un avec la réalité, ça veut dire que la réalité, c'est le Emet. Ça va ? Maintenant, toi, tu vas étudier la Torah, tu vas apprendre beaucoup. Après, il faut que tu deviennes ce que tu as appris. Parce que si tu n'es pas cohérent avec ce que tu as appris et tu n'es pas devenu ce que tu as appris, donc tu es en décalage avec ce que tu as appris. L'enfant, il ne va pas apprendre ce que tu as appris, il va apprendre ce que tu es devenu grâce à ce que tu as appris. Et si tu n'es pas devenu, il apprend qu'on ne devient pas. Et si tu n'es pas égal, il apprend qu'on n'est pas égal. Et si tu n'es pas bien dans ta peau, ou tu n'es pas bien dans ta Torah, il apprend qu'on n'est pas bien dans la Torah. Et si toi tu lui dis, mais il faut être bien dans la Torah, il dit oui, mais toi tu n'es pas bien dans la Torah. Seulement il n'a pas la force de le dire. Il n'a pas le recul de le dire. Pourquoi ? Parce que si les enfants, ils avaient la maturité de leur sensibilité, on ne pourrait pas vivre, on serait mort. Donc qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu ? Le bon Dieu, il fait que les enfants, ils mettent 30 ans à trouver les mots pour dire ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont ressenti. Et pendant ces 30 ans-là, nous, on a le choix de devenir ce qu'eux, ils sentent. Ou ce qu'on est censé être. Mais si on profite du fait qu'on a l'impression qu'ils ne comprennent rien pour rester des brêles, donc un jour, ils vont dire, ben finalement, mes parents étaient des pauvres types. Et un pauvre type, c'est pas quelqu'un qui est nul. C'est quelqu'un qui n'a rien fait pour être bon. Mais celui qui a tout fait pour être bon, même s'il n'est pas devenu bon, le fait même d'avoir fait cet effort d'être bon, c'est ce qui l'a rendu bon. parce qu'on sait très bien que le résultat ne nous appartient pas. C'est l'effort qui nous appartient. La ishtadlut beyad adam. Ouais. L'effort, il est dans la main de l'homme, mais le résultat, il est dans la main d'Hachem. C'est pour ça que le but de la vie, c'est de faire des efforts. Adam le amal yulad. L'homme, il a été créé pour faire des efforts. Et l'effort, le amal, c'est ça qui rend fort. Parce qu'on dit tu es fort, tu es fort. Tu es fort. Et fort, c'est gibor. Gibor, c'est fort. Et gibor, c'est gever. Gever, c'est un homme. Donc, celui qui accepte de faire l'effort et celui qui fait l'effort, c'est qu'il est fort. Parce que tu es fort. Maintenant, celui qui refuse l'effort, faut juste inverser le mot. Donc, quand tu acceptes l'effort, on dit tu es fort. Et quand tu refuses l'effort, on dit l'effort tue. L'effort tue. Donc c'est ou tu es fort, ou l'effort tue. Maintenant, celui qui ne veut pas faire d'effort, l'effort le tue. Ça le tue. Il ne veut pas travailler, ça le tue. Il ne veut pas prier, ça le tue. Il ne veut pas lever la valise, ça le tue. Il me dit, mais ça me tue. Mais tu me demandes des choses qui me tuent. Mais ça veut dire quoi? Il faut habituer les enfants que de faire des efforts, c'est normal. C'est comme ça. C'est bien. Comprenez ou non? Mais si toi, dans ta grande bonté, tu fais tout pour qu'ils ne fassent pas d'efforts, donc tu vas les habituer à penser que l'effort, ça tue. Laisse-le manger sa chambre. Tu lui donnes grâce à Dieu dans la bonne. Laisse-le qu'il accompagne ses enfants, ses frères. Laisse-le qu'il marche à pied. Ah, grâce à Dieu, on a quatre voitures, on a le chauffeur. Laisse-les marcher à pied. Qui trouve normal de prendre la pluie sur la tronche, laisse-le. Moi, mes copains me disaient, mais t'as pas honte, rien. Tu laisses cinq enfants partir tout seul à l'école, avec la neige, et traversent la rue, morbonnine comme ça. Petit, crime comme ça. Je te dis, c'est vrai. Mais tu verras, ils seront indépendants. Et après, tu les vois à 15 ans, les deux, ils partent, les trois, on leur donne l'argent, ils prennent le billet de train, ils vont... Ils téléphonent, ils prennent la chambre d'hôtel, ils amènent le manger avec eux, ils font du ski pendant deux jours et ils reviennent. Mais vous n'avez pas peur? Est-ce qu'il se passe dans la rue? Est-ce qu'il se passe dans la rue? Pourquoi le bon Dieu est mort? Ils vont avec les bains, ils trouvent le mignon, ils font la prière, ils vont au ski, ils reviennent, ils mangent cachet, ils font par quatre Amazon, ils reviennent. Et quand ils arrivent à 11h du soir, ils disent papa, tu viens me chercher à la gare? Je dis pourquoi il n'y a pas de métro? Hop. Tu dis, Hazu Shalom, leur allez-nous. C'est vrai, mais va voir la maturité. Va voir. Et l'autre, il a 38 ans. Papa, t'as pas 1000 euros parce que je sais pas comment je vais m'en sortir. Tu me payes le loyer ce mois-ci. Mon fils, t'as 38 ans. Mais papa, je sais que je peux compter sur toi. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il a fait des études de comptabilité comme ça. Il sait sur qui compter. Il compte bien. Non. Dobrasque. Tu vas devenir quelqu'un de bien. Oui. Mais attention. Attention. Parce que si toi... tu l'envoies à l'école à pied pour te débarrasser, il va ressentir qu'il n'y a pas d'amour. Et si tu l'envoies à l'école pour qu'il grandisse, il va sentir que tu l'aimes et que tu fais ça pour son bien. Donc tu as intérêt à être clair quand tu l'envoies à l'école tout seul. Il y a toi qui peux savoir si c'est pour te débarrasser ou le contraire. Quand tu lui dis, vas-y, refais tout seul le devoir, ouais, alors il va croire que c'est parce que tu ne veux pas l'aider, ou alors il sait que tu peux lui expliquer. Maintenant, s'il avait été resté 4 heures avec lui pour travailler, et que le lendemain, il te dit c'est difficile, tu dis mon fils, tu vas le refaire. Alors maintenant, il le refait, qu'est-ce qu'il... il sait que tu l'aimes, mais il sait que c'est pour son bien. Donc il doit être convaincu de ton amour, ouais, malgré que tu as l'air de l'abandonner. Pourquoi il le sent? Parce que de toute façon, toi, vraiment, tu le penses. Ouais. Mais encore une fois, il n'y a que toi qui peux savoir si c'est pour te débarrasser ou si c'est pour l'aider à assumer. Parce que tu as, quand tu as la réponse au bout de la langue et que tu ne lui donnes pas. Mais il crève le pauvre, il va mettre une demi-heure pour faire le devoir. Oui, mais il va devenir intelligent. Alors que toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais les devoirs à sa place, tu dis, ça va, ça a été mon fils? Ah ouais, c'est beaucoup plus simple quand c'est toi qui fais. Ouais, ouais. Ah ben, je suis content. Comme ça, grâce à Dieu, ton fils, il voit que tu as un niveau de CE2. Pour un ingénieur, c'est bien, ça rassure. Ouais. Non, tu dis, mais tu vas le laisser crever pendant 3 heures devant sa lecture? Oui, cette fois-ci, il va mettre 3 heures. La prochaine fois, il va mettre 2 heures. Après, il mettra 10 minutes. Après, il lira un livre par semaine. Alors si tu dis, non, le pauvre, il va s'écorcher la cornée des yeux. Je lui lis, lui, il reste sur son lit, comme ça, tranquille, avec la PlayStation, et toi, tu lui lis l'histoire.
17 logique, c'est quoi? C'est que si toi, encore une fois, tu as eu un comportement qui est cohérent et que tu as lutté contre toutes les formes de décalage qui vont exprimer toutes les formes de mensonges, oui, alors tu vas éviter l'affabulateur, parce qu'il n'a pas besoin de rentrer dans les rêves, puisqu'il voit que tu es dans le Hémet. Tu vas éviter le monde parallèle. Pourquoi il va fabriquer un monde parallèle, puisqu'il il est bien dans le monde qu'on lui propose? Tu vas éviter la manipulation. Pourquoi? Pourquoi il ne va pas essayer de te manipuler avec des émotions, ou le contraire, avec de la terreur? Parce que toi aussi, tu ne manipules pas. Je vois des gens, ils me disent, vous savez, c'est difficile, un enfant qui crie, il se met dans des états, il se met à crier, on est obligé d'accepter. Je dis, mais vous avez accepté une fois? Il dit, ouais. Vous avez accepté deux fois? Ouais, c'est... La terreur, elle est venue à la maison. Tu dois lui montrer. Si toi, tu es une bouteille, l'eau, elle s'arrête. Si toi, tu es du sable, l'eau, elle pénètre. Tu es ou du sable, ou une bouteille en verre. Mais rappelez-vous que pour faire une bouteille en verre, il faut du sable. Donc le sable, c'est le père et la mère. Quand ils sont fondus ensemble, l'eau, elle passe pas. Mais si le père et la mère eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord, ils sont du sable, ils sont des grains de sable, l'eau, elle passe. Et c'est pire, parce que plus vous serrez fort, et plus ça sort. Donc ça ne marche même pas. Ça ne marche même pas la terreur. Ouais. C'est quoi? Tu tiens ta place, et lui, il va tenir sa place. Donc il n'y aura pas de manipulation. Après, il ne faut pas se servir du mensonge pour fabriquer de la confiance. C'est-à-dire que toi, tu dis, bon, je vais lui mentir. Comme ça, je vais lui faire croire, et après, je peux abuser, parce que lui aussi, il peut fabriquer de la confiance. Ouais. Il te dit, ouais, je fais les devoirs, je travaille, je révise la Mishnah, et en fin de compte, il est chez sa copine. Tu dis, mais comment tu as pu mentir? Mais toi aussi, tu lui as fabriqué de la confiance. Vous comprenez ou non? Quelqu'un, il ment, il dit, mais c'est pour le shalom, je lui mens pour qu'il ait confiance en moi. Eh bien, si tu mens pour que l'autre ait confiance, lui aussi, il va mentir pour que tu aies confiance. Et enfin, le dernier, c'est quoi? C'est la personne qui ment pour fabriquer un crédit. Par exemple, c'est comme si je viens chez toi, je t'ai dit, tiens, tu te rappelles quand je t'ai prêté les 20 000 euros? Je dis, franchement, je ne me rappelle pas. Mais si, les 20 000 euros en 85, tu ne te rappelles plus, tu étais embêté et tout ça. Tu m'as dit, tiens, passe-moi 20 000, après tu me les as rendus au bout d'un mois. Ah, bon, c'est vrai. Tiens, en fait, à part ça, maintenant, c'est moi, maintenant, tu sais, des fois la roue elle tourne, c'est moi qui ai besoin de 10 000. Non, il n'y a jamais eu les 20 000. Maintenant, pour que toi, tu me prêtes les 10 000, moi, je t'ai inventé que je t'avais prêté 20 000. Alors maintenant, toi, tu te sens que tu es redevable. Sur la base de quoi? De rien. Donc ça s'appelle le mensonge qui fabrique du crédit. Je me fabrique du crédit. D'accord? Comme des gens, ils s'inventent, qu'ils ont fait tel mitzvah, ils ont fait tel truc. Moi, j'ai plein de gens que je rencontre, ils me disent, tiens, en fait, quelqu'un m'a dit que tu as fait tes chouvas grâce à lui. Un autre, il me dit qu'il a fait tes chouvas grâce à lui. Moi, je suis content, je dis, bah, grâce à Dieu, tout le monde m'a fait faire tes chouvas. Ce directeur d'école, il dit que c'est grâce à lui. Celui-là, il dit que c'est grâce à lui. Il y en a un, il organisait des séminaires. Il y a 20 ans, il m'a invité au séminaire. Une fois. Depuis ce jour-là, il a dit que c'est lui qui m'a lancé. Franchement, ça ne me dérange pas. Non, si ma renommée, elle peut nourrir le délire d'un frustré, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Je te promets, ça ne me dérange pas. J'ai aucun problème. Je ne vais pas faire des annonces dans les journaux. Quand le mec qui raconte ça, c'est des lourdeurs. S'il m'avait invité 64 fois dans les séminaires, il m'a invité une fois. Après, depuis ce jour-là, il dit que c'est lui qui m'a lancé. Mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Je ne sais pas si tu comprends. Qu'est-ce qui c'est bien? Que si ça lui fait du bien, qu'il se passe du bien. Et s'il lui manque du cirage, je vais lui redonner encore. Ouais. Ça lui fait plaisir de se faire briller. C'est pas grave. Pourquoi? C'est sa vérité à lui. Comprenez ou non? C'est sa vérité à lui. L'autre, c'est sa vérité à lui. L'autre, c'est sa vérité à lui. Et je respecte la vérité de chacun. Comprenez cette logique ou non? Et l'homme, comme ça, qui se fait le matin. Oui, je vais rétablir la vérité. Je vais dévoiler la vérité. Mais c'est sa vérité. L'autre, c'est sa vérité. Après, tu dis, oui, mais il a menti. D'accord, mais l'autre, il a accepté d'y croire. Donc, c'est leur vérité aux deux. Non, je vais leur montrer que c'est faux. Mais ça sert à rien. Parce que, un, tu vas lui casser l'image de son maître, et l'autre, tu vas lui casser sa place d'élève. Donc, tu as cassé les deux. Pourquoi faire pour la vérité? L'autre, c'est son père. Eh bien, il pense que son père était un type bien. Eh bien, lui dit que c'était un type bien. Non, je vais lui montrer que son père, c'était un pourri. Mais pourquoi faire? Pourquoi? Pour qu'il se tire une balle dans la tête? Ça sert à rien. D'accord? Et cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'une personne, elle est matima avec son émet à elle. Elle est adaptée à son émet à elle. Alors elle a grandi dans son émet là, c'est son émet à elle.
Comme toi, tu vois qu'un type, il n'est pas intellectuel, tu ne vas pas commencer à lui parler de la philosophie. Il aime bien les petites histoires rigolotes. Raconte-lui une histoire rigolote. Celui-là, il aime les Dvar Torah. Tu lui dis des Dvar Torah, tu ne commences pas à lui raconter des histoires dégueulasses. Il aime les Dvar Torah. Donc, si on émet à lui, c'est des Dvar Torah, tu lui donnes un Dvar Torah. Celui-là, si on émet à lui, c'est des petites blagues, tu lui fais une petite blague. Et les deux, ils sont contents. Tu dis, mais moi, c'est pas ma nature à moi. Ma nature à moi, c'est pas de raconter des blagues. Ma nature à moi, c'est pas de faire des Dvar Torah. Mais attends, baba, t'es pas le centre du monde. C'est que l'autre, il t'a interpellé. Donc, toi, tu vas être adapté à lui. Mais alors, quand t'es adapté à lui, c'est son émet à lui. Alors, tu dis, alors à ce moment-là, si chacun il est singulier, alors moi, je dois être pluriel. Oui? Oui, non, oui, non, oui. Alors, je comprends pas. Le bon Dieu, la signature de Dieu, c'est le Emet. D'accord? Dieu, il est singulier ou il est pluriel? Dieu, il est pluriel ou singulier? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors, il est pluriel ou singulier? Mais il est pluriel. Puisque tu vois bien que chaque juif, il a une vision de Dieu qui est différente. Et c'est pas pour rien. C'est pas phrase de shalom parce que chacun y voit ses intérêts. Non, parce que chacun il a une neshama différente et chaque neshama elle a une perception de la vie différente. À plus forte raison qu'elle a une perception de Dieu qui est différente. Donc, si on ramène ça juste au problème de l'enfant, c'est que toi, il faut que tu trouves exactement quelle est la longueur d'onde du émet de cet enfant-là. Et le émet de cet enfant-là, oui, tu peux pas l'utiliser pour le émet de l'enfant d'à côté. Ça, c'est son émet à lui. Lui, il a besoin qu'on soit dur, et c'est son émet. Lui, il a besoin qu'on soit cool, et c'est son émet. Lui, il a besoin qu'on le pousse, et c'est son émet. Lui, il a besoin qu'on le laisse tranquille, et c'est son émet. Tu vas prendre le émet de l'un pour l'autre, ça marche pas. Donc maintenant, le mensonge, on voit que c'est bien, bien au-delà d'un décalage entre ce que tu dis et ce que tu penses. C'est bien plus que simplement qu'il y a un malaise de comportement. C'est pas seulement des attitudes, c'est pas seulement une longueur d'onde que tu vas émettre. C'est que maintenant, il faut que tu trouves comment est-ce que dans ce puzzle extraordinaire de la réalité, chacun il va trouver sa place avec une harmonie incroyable. Oui ou non? Parce que le bon Dieu, il a pensé que cette personne-là, elle avait sa place. Alors comment toi, tu penses que non? Et c'est émettre. Ça va? Donc si cet homme-là, il a sa place en tant que chassid, et celui-là, il a sa place en tant que chassid de Bobov, et celui-là de Lubavitch, et celui-là, sa place en tant que séfarade, et celui-là, il a sa place en tant qu'ignorant, et celui-là, il a sa place en tant que sympathisant, eh bien, dans ce puzzle-là, ils ont tous une place. Alors tu dis, mais j'arrive pas, c'est trop compliqué. D'accord, alors essaie de faire le puzzle de ta famille déjà. Comment chaque enfant, il a sa place. Fais ce travail-là déjà. Oui, comment chaque enfant il a sa place, et après comment chaque enfant il est adapté par rapport à sa facette à la famille, oui, et après comment toi tu arrives avec ta femme à être adapté à la facette de chaque enfant. Et c'est vrai, parce que tu prends un diamant, il y a 70 facettes minimum, et c'est un seul diamant. Comprenez ou non? Si c'est un cube, ça fait 6 facettes. Personne n'achète des diamants en forme de cube. Ça fait plexiglas. Même un gros, tu vois, on prend un 280 carats, mais un cube, tu le poses comme ça, il n'a aucun charme. Il est taillé. Il a 70, et quand même, ça forme un seul diamant. Alors c'est pareil. Maintenant, à toi de trouver les 70 facettes de ton enfant et les 70 facettes de ta famille. Et tu verras que dans le diamant de ta famille, chacun, il a une place à tenir et chacun, il a un rôle à jouer. Et c'est très bien. Et c'est très bien. C'est pour ça qu'on dit que Yaakov Avinu, oui, il a béni ses enfants séparément et il les a bénis tous ensemble. Parce qu'il les a bénis séparément pour que chacun il pousse au maximum son potentiel. Mais le problème, c'est qu'ils étaient tellement différents qu'il y avait une grande chance qu'il y ait une explosion interne parce qu'ils ne peuvent pas rester ensemble, ils sont trop différents. Donc il les a rebénis ensuite, tous ensemble, pour qu'ils réussissent à fonctionner ensemble malgré leurs différences. D'accord? Donc maintenant tu as compris, il faut le émettre de chacun, ouais, et le émettre de la famille. Et c'est ça, c'est un miracle. Que tu vois un frère qui est hyper nerveux, un frère qui est hyper calme, un frère qui est très manuel,
et un frère qui est très intellectuel, et ils sont tous à la même table, et Baruch HaShem Yal Shalom. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle, vous comprenez ou non? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui les relie? C'est la fraternité. Mais alors, qui c'est qui va créer ce tissu-là de fraternité? C'est les parents. Mais s'ils commencent à dire, non, toi, c'est spécial, toi, tu es un chacham, toi, tu es un chmar, tu es un brel, toi, tu restes là-bas. Toi, tu manges tes ongles, toi, tu dégages. Toi, tu te mets le doigt dans le nez, tu vas par là-bas. Toi, tu ne parles pas à lui. Lui, il est fou. Lui, il est malade. Il y a des gens qui font ça dans leur famille, même. Après, c'est marrant, il n'y a plus de famille. Tu vas à un mariage, tu dis, le khatan, bon, la famille du khatan. Écoutez, il y a le shamash, il est venu. Et les autres, où ils sont? Ils sont tous engueulés. Ah, mais c'est la Shoah? Non, pas du tout, non. Des Marocains ou des Tunisiens, 12 frères et sœurs, chacun il a eu 14 enfants. Tu dis, mais alors, il devait y avoir 10 000 personnes dans la synagogue. Je pense pas qu'ils vont venir. On a envoyé la carte, mais je pense qu'ils l'ont déchiré, on l'a entendu. Dans tout Paris. Il n'y a personne dans la famille. Le tissu familial, oui, il file par fil, il s'est défait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Hémet. Il n'y a pas de Hémet. Vous voyez cette logique ou non? Ou le contraire, qu'il y a le Hémet. Et le Hémet, c'est Matim. Matim, c'est adapté. Adapté, c'est ce qui crée le lien. Donc quand quelqu'un est cohérent, quand quelqu'un il est vrai, même s'il a mauvais caractère, tout le monde va l'aimer. Mais quand quelqu'un il est faux, même s'il est gentil, personne ne va faire un. C'est logique. À plus forte raison, hein, quand c'est l'ambiance de la famille qui est de cette manière. Voilà, Chazak Baruch. Donc, on vous a bien tenu. Hein. Donc, on va dédier le cours Leilou Nishmat de mon père Abraham Shimon Ben Simcha, Kachem Yelef Sanishama parmi les Sadikim Israël. Et on a d'autres personnes aussi. Qui c'est la personne que moi aussi, toujours le nom là. Georgia. Ouais.
Benjamin.
Ben Georgia. Et qui encore? Vous avez personne disparu?
Chaim Ben Sarah.
Chaim Ben Sarah. Chaim Ben Sarah. Amen. Josie Ben Julia.
Amen.
Hana.
Bat.
Usher Enzel.
Amen.
Yehuda Ben. Mantina.
Amen.
Amen. Et Amen. Rachel. Menachem Mendel Hillel Ben. Ben Rivka. Non, c'est pas une fois chez les mains, là c'est Niftar. C'est pour les gens Niftarim. Après. Donc, et Amadi Ben Chaim Limeti, on demande une réfoua chez les mains pour tous les malades d'Israël. Pour Menachem, Hillel, réfoua chez les mains. Menachem, Hillel. Menachem, Mendel, Hillel, Ben Rivka. Amen. Et pour qui? Ronit Bataliva, Simcha Matflecha, Esther Matflecha, Nathalie Kamra Batsaada, Rav Eliashiv, Rav Mordechai Eliyahu, Refoua Shelema, Ruria Bat Miriam,
Allegra Arekani,
Allegra Arekani, c'est pour Yosef Ben Mazal.
Amen.
La prochaine date, et dans ta chaîne, ça sera le 15 mars, et normalement le thème.
15 février.
Il n'y a pas février.
C'est le 15 mars.
C'est pour voir si vous avez longué. C'est pour voir si vous avez longué.
Demandez si le cours peut intéresser sur la Parnassa.
Est-ce que ça vous intéresse le cours sur la Parnassa? Oui, non.
Faut payer?
Oui, non.
L'entrée sera payante exceptionnellement, mais ça c'est normal. On va voir combien vous êtes attaché à la Parnassa.